Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi.
Qu'est-ce que c'est?
Tu m'avines si c'est le Démogorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette fête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! J'ai retrouvé ma voix.
Hello! Bah, en un mois, quand même, ça aurait été dommage.
C'est vrai. Bonjour Mathilde, comment ça va?
Ça va, et toi?
Oui, j'ai retrouvé ma voix.
Oui, Mathilde.
Et bonjour Damien, comment ça va?
Ça va, j'ai bien mangé.
Ah!
C'est très intéressant.
Est-ce que vous avez bien dormi?
Oui.
Ou non, pas assez.
Maintenant qu'on sait exactement comment ça fonctionne et tout ça, les rêves et tout, ça vous fait pas bizarre?
Eh bien... un petit peu, mais du coup, ça me rassure. Je me dis que moi aussi, je peux devenir un vortex.
Bah non.
Pas du tout.
Tu peux pas.
Bien sûr que si.
Tu peux pas. Non.
Pourquoi je pourrais pas y aller?
Trop tard. Il y en a déjà eu un dans notre temps.
T'es peut-être... oui, déjà, et puis... moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est que, bah, en fait, je pensais que c'était un truc à moi, les rêves. Mais non, en fait, c'est... il y a des gars qui voient tout,
oui.
Mais ça fait peur. Je suis un peu gêné.
Je comprends.
Avant, tu vois, on pensait que c'était notre truc à nous. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, on sait que c'est un peu comme s'il y avait des webcams dans ton esprit.
Mais avec que un gars qui peut regarder.
Ouais, et puis tous les gens autour de lui, quoi.
Oui.
Son corbeau, tout ça, tout ça.
Mais il peut regarder
Mathieu.
Tous les autres gens, donc ça va.
Mathieu, là, il se balade et tout, il fait sa petite life.
Ouais.
Va falloir donner du contexte, hein, parce que moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre de quoi on parle.
On parlera plus tard de ça. C'est un mois d'août triche dont on va vous parler, justement. Un mois d'août triche. On va parler de Drag Race France sur France.tv, de Lock and Key sur Netflix et de Sandman, évidemment, c'est de ça qu'on parlait, sur Netflix aussi. Avant de commencer, un peu de Hype Top. Non. J'ai pas fait exprès pour c'était de vrai.
Bon, je vais commencer parce que Damien, de toute façon, il a rien mis.
Bah, ça va, la dernière fois, j'étais le seul à en avoir.
Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Alors, pour commencer.
Il y a pas une saison de Brooklyn Nine-Nine qui commence.
Mais c'est fini.
C'était la fin.
Ne remuez pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît.
Elle est déjà béante. la plaie que lui a laissée Brooklyn Nine-Nine, je veux dire.
Ah.
Du coup, on commence par les Hypito et après il y aura un Dépito.
Je me joins au Hypito de Mathilde en vrai.
Ah, sympa. On a appris que qu'il y aurait une saison 4 de Umbrella Academy. Elle a été annoncée il y a 4 jours sur Instagram.
Il y a 4 jours
une
à partir
4,
de
il y a 4 jours.
Il y a 4 jours à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 29 août à l'heure actuelle. Il y a
le
4
25,
jours.
Quoi.
Ouais, le 25 août, du coup, on nous a dit il y aura une saison 4 de Umbrella Academy.
Oui.
Et ça sera la dernière saison.
Et oui. C'est bien d'avoir des fins prévues.
Ouais, c'est bien.
Et elle sort à l'automne, ce qui est très bientôt.
Bon, je sais pas quand elle sort, par contre.
C'est pas possible.
Non, c'est l'automne 2023,
je crois. Ah oui, voilà.
Il raconte des trucs.
Donne des infos approximatives pour créer des...
Le deuxième Hypito, j'ai vu la bande-annonce de Mercredi, la série sur Mercredi Addams, qui sort sur Netflix. Et
j'ai
ça
une question.
Donne super envie.
Est-ce que ça a un rapport avec la famille Addams?
Oui.
Oui. C'est sur la Mercredi, c'est la jeune fille qui a des tresses.
Bah, c'est la fille de la famille, quoi.
Qui a deux tresses.
Est-ce que ça a un rapport avec le super-héros Black Adam?
Aucun. Non, aucun.
Il n'y a pas de Dwayne Johnson dans la série, ça veut dire.
C'est décevant.
Et ça donne vraiment envie, cette série. Oui. La série doit sortir à l'automne, mais ils n'ont pas vraiment donné de date pour le moment. Mais vu le contexte et vu de quoi ça parle, je pense que ça sortira en octobre. Pour Halloween, pour Simon, pour tout ça qu'on adore trop. Il est en train de s'étouffer.
Ça donne d'autant plus envie que la série est... je vérifie en même temps. La série est...
Non. Tu vas dire Tim Burton est dans le coin.
Est-ce que c'est un rapport avec l'acteur Adam Driver?
Non. Mais ils ont l'air de dire qu'en fait, c'est sorti de la tête de Tim Burton, mais je ne sais pas s'il a participé à sa production.
Genre, il aurait fait que le scénario?
Je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Ils disent que l'univers est sorti tout droit de la tête de Tim Burton, mais...
Il est réalisateur.
Ah, quand même.
Et c'est créé par Miles Millar, et il me semble que ce monsieur a créé Smallville, mais je suis pas sûr. Tout à fait.
Ouh.
Il a créé Smallville.
Ça, ça va, ça c'est de l'info. Mais en tout cas, j'ai vu une scène principale qui m'a vraiment fait rire. C'est en gros, il y a des gens qui sont dans la piscine, ils sont en train de nager. Et elle arrive et elle leur dit « Seul moi ai le droit d'emmerder mon petit frère ». Et elle a des gros sacs avec des poissons dans les mains et c'est des piranhas. Et elle les jette dans la piscine. Voilà. Ça donne trop envie.
Oui, j'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu que ce truc-là allait sortir et ça donnait envie, effectivement. Espérons que ça soit un Tim Burton inspiré et pas le Tim Burton de ces dernières années qui est un peu fatigué.
Ouais. Bah, on passe au dépito maintenant.
Allez.
On fait la tête. Bouh. On lance des fléchettes. Empoisonnées. Non, je sais pas. On a appris, tout le monde a appris que First Kill a été annulé après seulement une saison. D'après la showrunneuse, c'est lié à un taux d'engagement trop bas. Donc en gros, la série n'aurait pas été assez regardée. Et je suis vraiment déçue, c'est nul, car c'était une série où la représentativité était vraiment très bien de temps. Il y avait des personnages racisés, des personnages queer. C'était la première série de fantasy qui avait pour personnage principal un couple lesbien. Et bah, du coup, au placard, rien à faire, c'est terminé. Voilà. Donc je suis plutôt triste.
C'est vrai, faut bien laisser de la place pour la saison 14 de Qui a tué Sarah.
Ou Elite.
Moi, j'ai un dépito aussi. Là, c'est peut-être le plus gros dépito que j'ai depuis le début des récapitos. Disney Plus a annoncé une augmentation de ses tarifs et de la publicité sur sa plateforme.
Pour tout le monde ?
Pour l'instant, ces annonces ne seront qu'aux États-Unis, mais bon, pas pour cause, ça ne viendrait pas chez nous. Alors, il y aura deux formules Disney Plus, une qui s'appellera Premium à 10,99 $. Actuellement, c'est 7,99 $, donc c'est une augmentation de 37,5%.
C'est plutôt énorme.
C'est plutôt énorme. Et une formule Disney Plus basique à 7,99 $, mais avec des publicités de 15 à 30 secondes.
C'est non.
Pour un total de 4 minutes par heure de contenu visionné.
C'est non.
Quoi ?
En gros, on va payer le même prix pour avoir de la pub.
C'est non.
Pour 4 minutes par heure, ça veut dire que sur une heure de visionnage, tu auras 4 minutes de pub.
Ouais, ce qui est énorme.
Mais il n'y en a même pas autant à la télé.
C'est peut-être possible. Oh, si, je pense qu'on est sur un ratio de télé. Mais c'est peut-être possible que genre, ça coupe
des épisodes.
Ça coupe des. Je sais pas. Hein,
des films.
Si on en croit que.
Si tu regardes un film de 2 heures.
Mort. Bah non, mais c'est mort du coup. Enfin...
Ouais. J'ai fait une recherche. Qui pour info, pour en France, j'en ai ras le cul de la pub. J'en peux plus. Oui, qui va payer déjà enfin,
moi, je paye pas.
Et pour info, on est soumis à plus de 1200 publicités par jour en France. Sachant que l'étude que j'ai trouvée, qui est faite par un chercheur, elle datait de 2007. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut multiplier par 10.
Ouais, je pense que je m'en rends pas compte, j'avais pas l'impression d'en voir, mais dans la rue, il y en a plein. Et en fait, là où je revois le plus de pubs, c'est sur Insta ou les réseaux sociaux.
Voilà, en 2007, tout ça n'existait pas. Et ce monsieur a dit, là, c'est vraiment que les pubs, mais avec les marques qu'on voit sur les vêtements, tous les trucs comme ça, on est soumis à 15 000 marques par jour en France.
En 2007.
En 2007.
Oh là là.
Voilà. Alors. Bonne ambiance. Du coup, Disney+, allez vous faire cuire un œuf pour rester poli. Je sais pas ce qu'on fera, mais ça me fait chier. Voilà. Mais Netflix a dit que sans doute ça allait faire la même chose.
Parce que
et Prime Video fait déjà pareil.
Aussi sur Netflix qui voulait aussi mettre de la pub, un abonnement avec en gros moins cher pour ceux qui voulaient de la pub.
Bah, ce serait déjà plus fair play à la limite que de faire augmenter les abonnements de tout le monde et de garder le prix.
Ouais, c'est Disney. Hein. Voilà. On passe à la suite. Oui.
Dis pas fort.
On passe à la suite. Mathilde va ouvrir
bâton de parole.
Voilà, bon, allez. Tu vas nous parler d'une série sur Netflix.
Je vais parler d'une série où je pensais que c'était la dernière saison, et en fait, non.
Ces moments étaient très importants.
T'as l'air fâché pourtant.
Non. Je vais vous parler de mes premières fois. C'était la saison 3 qui comptait 10 épisodes de 25 minutes qui est sortie le 12 août sur Netflix. C'est donc une nouvelle saison. Pour résumer, à la fin de la saison 2, Davy avait fini par sortir avec Paxton, le plus beau mec du lycée.
Le BG du lycée.
Voilà, c'était ça le résumé. Parce qu'au final, je ne me rappelle pas trop ce qui s'était passé dans la saison 2. Je me rappelle juste que j'avais pas trop accroché à cette saison 2. Du coup, bah, on recommence cette saison avec Davy la geek et Paxton le beau gosse.
C'est pas cliché, c'est bien.
C'est bien, c'est ça, comme c'est... ça. J'avais pas vraiment aimé l'évolution de la saison 2, comme je l'ai dit. Cette troisième saison remonte le niveau. Ça fait wouh tout d'un coup.
C'est ça, un niveau qui remonte.
Wouh très vite.
Et comment c'est un niveau qui descend.
Ok.
Ça marche trop bien.
Et du coup, là, on remonte. dans la saison précédente, Davy, elle faisait un peu n'importe quoi. Elle avait des réactions vraiment trop cheloues. Elle se disputait avec tout le monde. Elle faisait grave sa crise d'ado. Son père était mort dans la saison 1, donc elle aurait dû continuer à être endeuillée. Mais en fait, elle s'en avait plus rien à foutre de rien. C'était
trop
bizarre.
Elle a fait son deuil. Elle a fait
Soit triste.
Deuil.
Ouais, enfin, trop bizarre cette saison 2. Et bah là, on revient un peu dans la normalité. Davy a des réactions détester. Beaucoup moins cheloues. Ses amours sont encore au cœur de la série, mais ses amitiés et la solidarité féminine est également au cœur des intrigues. Genre, par exemple, il y a un moment où elle quitte. Elle dit à son mec, je te quitte si tu vas pas t'excuser auprès de tes ex pour avoir été un con. Ah bah ça c'est bien.
Bravo.
Ça c'est
Paxton.
Bien. Ouais. Elle dit à Paxton, si tu vas pas t'excuser auprès de ton ex pour avoir été un con, je te quitte. Et au final, il s'excuse auprès de cette fille. Et il y a toutes ses ex du lycée qui viennent et qui disent, avec moi aussi, t'as été un connard, avec moi aussi. Et du coup, il s'excuse auprès de chacune d'elles.
C'est le
mea culpa.
Me too Paxton.
Tout du lycée.
Le deuil est également de retour dans la série. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, une thématique qui revient alors qu'elle avait été abandonnée dans la saison précédente. Je trouve ça plutôt bien car en fait, le deuil, au final, c'est un processus long et on n'oublie jamais les êtres à qui
disparu.
On tient et qui nous aiment.
On les remplace.
Non plus.
C'est horrible.
Donc, du coup, j'ai trouvé ça cohérent avec la série. L'éthique et la morale de cette saison sont plus en adéquation avec mes valeurs et je l'ai donc beaucoup plus apprécié. L'humour est toujours présent, ainsi qu'une bande son vraiment trop cool. Les bandes son de cette série, elles sont vraiment trop trop bien. Mes premières fois aura une saison 4 qui sera la dernière, pas la 3. La 3, c'était pas la dernière, voilà. Encore heureux parce que sinon ça se finissait un petit peu d'une façon bizarre.
Sur les chapeaux de roue.
On va encore suivre Davy une année qui sera sa dernière année de lycée avant son départ à la fac.
Et puis après il y aura Davy à la mes deuxième fois à la
oui.
fac.
Je cherche un jeu de mots aussi.
Pas du tout.
Pas du tout.
La suite c'est moi qui la raconte. Oh, c'est très égocentrique comme oui. manière de
tu passer. Tu te la racontes trop là, je crois.
Je vais vous parler, comment c'est l'expression ? Une fois n'est pas coutume
une fois
d'une
n'est pas
série
coutume.
Sur YouTube. D'une web-série plus exactement. C'est le Visiteur du Futur, l'intégrale, donc saison 1, 2, 3, 4, qui compte 57 épisodes, qui vont de 2 minutes pour les quelques premiers épisodes de la série à 28 minutes.
Attends, j'ai une question d'éclaircissement.
Oui.
C'est 57 épisodes en tout ou c'est 57
en tout,
je me suis pas
amusé à faire. Alors, la première saison okay. compte 22 épisodes.
Ouais, non, mais c'est pour avoir une idée.
Non, c'est l'intégralité. C'est sorti entre 2009 et 2014 et donc c'est sur YouTube. Le résumé pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout cette série.
Bon, qui connaît pas.
C'est Raph est un jeune homme paisible et sans histoire jusqu'à un jour de 2009 où un étrange personnage ensanglanté apparaît comme par magie devant lui grâce à une machine qu'il porte en bracelet. Prétendant venir du futur, celui-ci le met en garde à de multiples reprises sur les conséquences désastreuses que pourraient avoir ses gestes, surtout les plus anodins, dans un futur lointain. Après de multiples intrusions du visiteur dans sa vie, Raph subit les interventions de deux étranges personnages qui se présentent comme étant la brigade temporelle. Ça, c'est vraiment le résumé du tout début de la saison 1. Après, il se passe plein d'autres trucs beaucoup plus vastes et beaucoup plus larges. J'avais envie de tout rattraper, de tout revoir avant d'aller voir le film qui sort le 7 septembre, donc c'est très bientôt. Et c'est incroyable d'avoir une web-série qui continue au cinéma.
J'aimerais... Ben, c'est pas Kaamelott.
Kaamelott était déjà une série télé. J'ai eu envie de faire un gros rattrapage. J'avais déjà vu, évidemment, Toutefois, à l'époque, j'avais suivi les saisons 3 et 4 au rythme des sorties hebdomadaires. Donc là, le binge-watching permet d'apprécier l'ambition croissante du projet. L'acteur principal, Florent Dorin, il est vraiment bon. Son surjeu et son énergie envahissante servent un personnage exubérant. Je trouvais avant, je me dis, il est un peu déjanté, mais je trouve que maintenant que j'ai un regard un peu différent et plus pointu, je trouve que c'est très bien. Son alchimie avec le reste du casting fonctionne, mais surtout avec Slimane Baptiste Beroun qui interprète les différentes versions du docteur Henri Castafolt, dont le duo est fabuleux. Et ce principe du personnage du docteur Henri Castafolt est trop bien. Je vous laisse la surprise. La découvrir aujourd'hui peut être un peu compliqué parce que c'est de l'amateur de 2009, donc visuellement ça pique. Et surtout parce que c'est très très écrit par un mec blanc hétéro cis, donc il y a des blagues et des éléments du scénario qui font grincer des dents. Mais c'est l'époque, et ce qui compte c'est qu'on le fasse plus aujourd'hui. Donc j'espère que dans le film il n'y aura pas tout ça. Et si on passe outre ses défauts, ça vaut le coup d'insister. C'est sans doute la meilleure web-série française qui existe, par son aboutissement et sa professionnalisation progressive. Et puis c'est de la science-fiction, alors il faut saluer l'audace de produire ce genre dans notre bon pays qui a du mal avec ça.
C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup.
Voilà.
Et quand il y en a, des fois, elle est nulle.
Tu penses à quoi ?
Le film, là.
Alors là,
de Jeunet.
Directement.
Ah oui, de Jeunet. Ah oui, oui, bon, oui, effectivement. Celui-là, comment c'était ? Bug. Oui. Big Bug. Bug. Vraiment. Oui.
Bug.
Voilà. Bon, on a fait. Il y a des trucs bien en SF quand même. Oui. On avait vu l'année dernière. Le dernier voyage. Incroyable. Trop bien. Ça, c'est pas SVOD, mais.
Ça a l'air triste, dit comme ça.
C'était trop, trop bien.
Non, c'était vraiment trop, trop bien.
J'étais un peu triste aussi.
Un peu triste, beaucoup triste.
Voilà.
Ça parlait d'un mec qui sauvait le monde.
Bah.
En se sacrifiant.
Oui, en se sacrifiant, bien évidemment.
Voilou, Mathilde, tu peux enchaîner si tu veux.
Alors, je vais être rapide.
Vas-y, chronomètre.
Je vais vous parler de Lock and Key, la saison 3, de 8 épisodes d'environ 55 minutes, je dirais, à l'approximativité. C'est sorti le 10 août 2022. C'est une nouvelle saison et également une dernière saison. Donc, la série est terminée. J'ai pas vu le dernier épisode. Enfin, en gros, j'ai vu. Il me reste 30 minutes à regarder de dernier épisode, mais c'est pas très important. c'est pour vous dire mon niveau d'implication. Pour résumer, Dodge a disparu. Tyler a décidé de renoncer à ses souvenirs de la magie suite au décès de sa petite amie dans la saison précédente. La vie reprend son cours doucement à Kay's House, mais c'était sans compter l'idiotie de Bodylock et un super méchant démon débarqué d'on ne sait pas trop où qui souhaite détruire le monde.
Ah, on ne sait pas d'où il vient en plus.
Bah, il vient de derrière la porte.
Ah oui. Bah voilà, on sait où il vient.
Pour ceux qui ne regardent pas, vous n'avez rien compris, c'est normal.
Non.
Je trouve que tout met énormément de temps à commencer. Ça s'active vraiment qu'à partir de l'épisode 5. Sur 8, c'est vraiment tard. J'ai eu envie de donner des claques à Body durant tout le visionnage. C'est vraiment un gosse stupide. Il écoute rien. Clairement, c'était horrible.
Body, c'est le plus jeune ?
Ouais, c'est le plus jeune de la fratrie, ouais. Enfin,
des enfants.
Il est horrible. J'ai toujours autant envie d'aller vivre dans leur maison, par contre, elle est toujours aussi
vraiment,
belle.
Vraiment, celle où il y a une porte avec un super méchant démon qui...
Non, le démon vient pas de là, il vient de sous la grotte. Dans la grotte, près de l'eau et tout, très loin de chez eux.
Ah, il y a une porte aussi là-dedans ?
Il n'y a pas de porte chez eux.
Si.
Non.
Ah bon ?
Il y a une porte qui peut te faire aller dans le monde des fantômes, si tu veux.
Oui, je pensais à cette
porte-là. Ah non, mais cette porte-là, elle est cool, c'est juste pour que tu te balades en photo, mais après tu récupères ton corps, c'est une gentille porte.
Ah bon, bah alors.
Il y a aussi une horloge qui te fait voyager dans le temps, hein, si tu veux. Il y a tout ce qu'il faut dans cette maison. Il y a même un passage. Si tu sors de la maison par ce passage, tu te transformes en animal. En animal que tu veux.
J'avoue, c'est cool.
Franchement, cette maison, c'est un peu... C'est Disneyland, mais en mieux.
Après, faudrait pas être... Genre, si t'es un oiseau protégé, il y a 9 chances sur 10 pour que des chasseurs veulent
t'écouter. Il y a même une clé. Si tu mets un harnais, t'as des ailes et tu peux voler.
Ouais, la maison a l'air cool. J'avoue.
Voilà, tout ça, c'est trop cool. Hein. Non, vraiment, les clés sont trop top. Par contre, bah, tu risques de te faire tuer à tout moment par des démons, des échos et des trucs vraiment très chelous.
Moins tentant.
Moins tentant. Mais la maison en elle-même, elle est trop, trop, trop belle. Vraiment trop beau. Enfin, les gens qui ont travaillé sur cette baraque, chapeau, vous avez fait un boulot trop bien. Donc, comme je disais, j'ai pas fini, il reste 30 minutes, mais cette saison ne m'a vraiment pas convaincue. Heureusement que c'était la fin. Voilà.
Ok, merci. Damien, tu vas nous parler d'une série que t'avais pas aimée.
Eh oui.
Ah, on continue dans les négativités.
Bah alors, c'est pas forcément négatif. En tout cas, c'est Superstore. J'avais déjà vu la saison 1 et j'ai regardé la saison 2. Qui contient environ 21 épisodes de 22...
Comme ça, environ.
C'est comme écoute, moi, c'est approximatif.
C'est approximatif, mais plus précis, parce que moi, j'ai les vrais chiffres.
Approximativement 4 épisodes et demi.
C'est sorti en 2016 sur Netflix. Et la saison 1 prenait fin sur un licenciement. Franchement, on peut spoiler l'intrigue, parce que c'est pas vraiment ça qui est très important. À la suite duquel, tous les employés décident de sortir du magasin en signe de protestation et de faire une grève menée par Amy et Jonah, qui sont les deux protagonistes principaux. Et du coup, la grève aboutit à la mise en place d'un nouveau manager. Les équipes de vendeurs vont devoir retrousser leurs manches pour mettre en place une journée d'adoption de chiens, transformer le magasin en bureau de vote et prévoir l'afflux de clients durant le Black Friday.
Adopter des chiens ?
Faut en arrêter fait... de faire des adoptants de chiens dans les supermarchés.
Bah alors, ça m'a plus perturbé de les voir voter dans un supermarché.
Oui, c'est vrai.
Mais après, du coup, je sais pas trop pourquoi j'ai continué de regarder. Je pense que j'ai besoin de très peu me concentrer. Et du coup, ça, je regarde ça en faisant le ménage ou en faisant la cuisine. Mais je change après pendant que je mange. Donc c'est même pas une série pour manger, c'est encore pire. Donc il n'y a pas beaucoup de mieux, il y a quelques petites intrigues secondaires un petit peu rigolotes de temps en temps. L'intrigue principale, elle est chiante, franchement, on s'attend à tout du début à la fin, il n'y a rien de surprenant. Et il y a quelques blagues de temps en temps qui sont un peu marrantes, mais même ça, c'est du réchauffé de sitcom.
Ah oui.
Une fortune et Lee.
Malheureusement. On te laisse la parole avec un animé cette fois.
Oui, ça s'appelle Tokyo Ghoul. C'était sur Netflix, je crois, avant. Maintenant, c'est sur Crunchyroll. Il y a 3 saisons. J'ai vu la une. C'est 12 épisodes de 22 minutes et c'est sorti en 2014. Mmh. Et le résumé est long.
C'est très long.
Alors, l'histoire suit Ken Kaneki, un étudiant qui survit à peine à une rencontre mortelle avec Rize Kamishiro, son rendez-vous qui se révèle être une goule. Il est transporté à l'hôpital dans un état critique. Après avoir récupéré, Kaneki découvre qu'il a subi une opération qui l'a transformé en demi-goule. Cela a été accompli parce que certains organes de Rize ont été transférés dans son corps à lui. Elle était une goule. Et donc maintenant, comme les goules classiques, il doit consommer de la chair humaine pour survivre. Donc il y a une partie de... Il y a des factions de goules. Et il y en a certaines qui gèrent un petit café et qui vont l'accueillir. Un café, un endroit où les gens peuvent boire du café.
Et il mange de la viande ?
Eh bah non, il peut pas. Enfin, il est obligé de manger de la chair humaine, quoi, en tout cas.
Quoi ?
Oui. Et ils vont lui apprendre à
du mal à comprendre tout ce qui se passe.
Enfin bref, certaines de ses luttes quotidiennes incluent son intégration dans la société des ghouls, ainsi que le fait de garder son identité cachée à ses compagnons humains, en particulier à son meilleur ami Hideyoshi Nagachika. Oui, c'était compliqué à dire. Ce résumé est potentiellement un peu bizarre parce qu'il a été traduit par Google Trad. Et...
Ah oui.
Mais ça fait pas peur, Tokyo Ghoul. Moi, j'avais cru comprendre que ça faisait peur. On le range dans le rayon des CNN.
Moi, je trouve que
librairie.
Le titre fait peur déjà.
C'est pas comme Tokyo Revengers, tu vois.
La fin de la saison est un peu crassou. Et c'est tout. Tout le reste, ça pourrait être du shonen pratiquement, je pense. En tout cas, c'est un super animé. Les personnages, ils sont vraiment trop bien. Genre Ken, il a vraiment une évolution incroyable en une seule saison. Je me souviens plus parce qu'en fait, je crois que je l'ai déjà regardé. Mais il me semble qu'après ça continue et il continue d'être de plus en plus coolos, même s'il lui arrive pas que des choses très positives dans sa vie. Les persos féminins pour du shonen sont pas oubliés. Genre.
Mais c'est pas du shonen.
Bah, moi je trouve que c'est plutôt du shonen. Je pense que c'est du seinen parce que ça date un peu. Hein.
Bah parce
mais si ça sortait maintenant, je sais pas si ça serait du seinen. Je vais pas m'engager dans un débat catégorique avec toi, donc je veux bien dire ça.
Bah, je te dis que dans mon rayon, il est en seinen.
Ça me va. Après, c'est l'animé, pas le manga.
Après, je mets Promise in Neverland dans du shonen.
Ah, tu vois,
je vais trancher.
C'est clairement pas normal
je
d'après
tranche.
Moi.
Je vais regarder des images. C'est un seinen parce qu'il y a du sang et ça fait trop peur.
Voilà, il y a quelques trucs dégueux en fait.
Bah non, c'est dégueu, attendez.
Ah bah ça, ça fait pas crade, c'est juste un perso non, avec du
dégueu.
Rouge autour.
C'est dégueu.
Bon, c'est très peu utile parce que c'est visuel, mais on voit une image avec le héros entouré
du
de sang
partout.
Et les yeux rouges.
Moi, je donne pas ça à un enfant.
Oui. En tout cas, du coup, il y a des persos féminins qui sont très cool, comme Toka, qui le suit tout le long et qui a aussi une évolution intéressante de par sa famille. Pour autant, c'est quand même beaucoup moins violent que Vinland Saga, par exemple.
Qui est aussi un scénario.
Voilà. Bah en fait j'ai repris mon petit texte dans le mauvais sens, alors je suis perdu. Mais oui, j'aime bien les arcs qui concernent aussi la police, qui font un peu ce qu'ils peuvent, alors que les ghouls sont clairement beaucoup plus fortes qu'elles et qui ont quand même des intrigues intéressantes et tout. Ça aurait pu être très chiant comme partie. Et on se rend compte au fur et à mesure que l'intrigue qu'on suit, elle prend place dans une plus grosse intrigue, et ça donne très envie de voir tout le reste de l'animé pour voir comment est-ce que tout se déroule ensemble.
Ou de lire les mangas.
C'est une possibilité.
Merci Damien. On va enchaîner avec une série, mais on va écouter la bande-annonce.
Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans Drag Race France.
Showtime.
Que la meilleure drag queen... gagne.
À quel moment on va nous ramener de la compétition?
Konnichiwa.
Oh. Sérieux, c'est pas possible.
Oh, pit crew, appréciez la vue.
J'adore.
C'est un programme éducatif.
Ouais.
C'est un petit égal enragé.
Elle en fait beaucoup.
Maman, regarde-moi.
Je juge pas.
C'est qui, cette fille?
En même temps, je suis un peu une diablesse.
Faut qu'elle se calme.
Le monde entier vous regarde.
La grosse pression.
Il va falloir se méfier.
J'attends de voir ce que ça va donner sur scène.
Boom.
C'est bien sûr Drag Race France, la saison 1, sortie sur France.tv, qui compte 8 épisodes d'1h10. Ça avait commencé à sortir dès le 25 juin 2022 et ça s'est terminé en août. Le résumé, c'est pas vraiment un résumé, c'est plutôt le concept de cette émission de télé-réalité. Nikki Doll, la plus célèbre et internationale des drag queens françaises, enfile les talons de RuPaul et s'installe aux commandes de Drag Race France pour une première saison événement. À ses côtés, un duo d'exception pour trouver la meilleure drag queen française, Kiddy Smile et Daphné Burki. Mathilde, est-ce que tu veux commencer à donner ton avis?
Ah bah oui, écoute, moi j'avais déjà regardé un petit peu Drag Race US, si je peux dire, avec RuPaul. J'avais regardé la saison 10, je suis toujours à train, il faut que je la finisse d'ailleurs, que je regarde de temps en temps. Et j'avais vraiment aimé le principe, je trouvais ça trop cool.
On avait même commencé avant ça, à regarder la première saison.
Ouais, mais c'était...
Mais
du coup,
elle est un peu trop datée.
Parce
que là, c'est la 10.
Ouais.
Oui, non, elle est vieille. Ouais. Elle est
non, là, on
ans.
En est à la
elle
14,
agréable,
je crois. 14 ou 15, je sais plus. Mais oui, on avait repris à la 10, qui était un peu déjà plus dans l'air du temps. Mais j'avais trop hâte de découvrir la première saison française. Et c'est clairement un énorme coup de cœur. C'est trop, trop bien. Cette saison m'a fait passer des rires aux larmes. Vraiment, j'ai pleuré. Il y a un ou deux épisodes en particulier où j'ai pleuré. Et j'ai découvert les participantes et elles sont vraiment trop cool. Enfin, toutes les drags sont trop, trop cool. À chaque épisode, j'étais éblouie. Leurs prestations et leurs défilés étaient juste à couper le souffle. En gros, c'était trop bien, cette émission. Et j'ai hâte de pouvoir aller les voir sur scène. Surtout Paloma et la Grande Dame, qui sont un peu mes chouchoutes. Oui. Et Cam aussi, que j'ai trop adoré. Vraiment. Elles sont trop bien, toutes les trois. Et moi, je dis vivement la saison 2, en espérant juste qu'elle pourra être diffusée à un meilleur créneau horaire. Parce que j'ai bien compris qu'en fait, c'était pas vraiment qu'ils voulaient cacher... La diffusion, c'est juste qu'il y a eu des problèmes parce qu'il n'y avait plus de place.
En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que c'était un programme qui était prévu que pour le digital, sur France.tv. C'était un programme 100% France TV slash. Et ça marchait tellement que France Télévisions a dit « on va le mettre sur les chaînes en linéaire ». Sauf que comme ça s'est improvisé,
oui, c'est ça,
bah, la seule place qui restait, c'était, je ne sais plus, le jeudi
je
à minuit, un truc comme ça.
Minuit,
bah,
ouais.
C'était minuit, mais un jour en semaine. Donc en audience, ça devait être un peu tout pourri à cette heure-là. Quoique, avec le bouche à oreille, peut-être que les gens ont dit...
Ouais, puis pendant l'été, à la limite... Ça...
Voilà. Mais c'était pas une tentative d'invisibiliser le programme en le programmant là. C'est plus, il a fallu improviser.
Non, mais
et voilà.
J'ai pas dit de méchanceté, mais j'espère juste que pour la saison 2, ça sera prévu direct et qu'il y aura une diffusion genre à 21h comme un programme... Enfin, c'est un programme de grande antenne. Tout le monde devrait pouvoir le voir. Et comme... comme il est dit dans la bande-annonce, c'est éducatif.
Et oui, moi, c'est un sacré coup de cœur aussi, en ce qui me concerne, et je ne soupçonnais pas ça. On avait commencé, je t'avais dit « Oh, regarde ça, ça pourrait être cool. » Et je pensais pas regarder, puis en fait, je me suis fait attraper, parce que je connaissais assez peu le milieu du drag, et puis j'avoue que j'avais même un peu... je trouvais ça pas très beau comme art, en fait. Ma méconnaissance faisait que je trouvais pas ça très beau. Bah, en fait, cette série, elle m'a bien calmé. J'ai totalement changé d'avis. Parce que les drag queens sont des artistes complètes aux multiples talents. Et puis, comme Mathilde, j'ai envie d'aller à Paris découvrir la grande gagnante sur scène.
Ah, oh, même les autres.
Ouais, mais Paloma, elle m'a vraiment.
T'as spoilé!
Ouais, on a dit qu'on spoilait.
Tout le monde le sait de ce genre. Je pense que si vous avez été sur Twitter, je pense que tout le monde sait qui a gagné, même sur Insta, le programme le.
Moi, je savais pas.
Et tout. Bah, voilà.
Alors oui, ça aurait pu être un hype-ito d'après coup. La semaine dernière, j'avais dit que Netflix spoilait trop vite.
Un post-pito.
Et ben, France TV slash, quand le compte fait des annonces de spoil, mais bien. Genre sur une vidéo, t'as 5 secondes avant que la vidéo commence et attention, ça va y spoiler. Mmh. Voilà, bref. J'avais trouvé ça hyper cool. Mais cette émission est un vrai plaisir à regarder. C'était drôle, c'était touchant, c'était émouvant, c'était beau. J'ai apprécié qu'il n'y ait aucune mauvaise onde dans cette version française, contrairement à la version US apparemment,
ouais,
où il y a un peu de drama mis en scène.
Il y a un peu de crépage de chignon. Ouais.
Là, c'est un programme 100% familial, feel good à fond. France Télévisions joue son rôle d'inclusion, d'information et de divertissement. Un grand bravo et une grande fierté que le service public français propose gratuitement ce genre de beau programme. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est gratuit en plus. C'est totalement gratuit. Et je suis fier que ma redevance finance ce genre de production et j'espère qu'il y aura une saison 2. Voilà, un peu de politique là-dedans.
Ouais, et puis même, je trouvais ça trop bien. On a pu découvrir des personnes avec leurs histoires. Enfin, quand ils sont à l'atelier, que chacun raconte un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font, qui ils sont. Enfin, c'était super, quoi. Enfin, elles sont trop bien. Elles sont toutes trop bien et j'ai trop hâte d'aller à Paris pour aller les voir.
Et j'y pense, je ne l'avais pas noté, mais Nikki Doll est fantastique. Et Daphné Burki, c'est vraiment une reine.
C'est trop, ouais.
Je trouve que, on savait qu'elle était déjà hyper drôle et hyper libre à la télé quand elle présente ses émissions. Mais là, elle est en mode encore plus, quoi. Elle était vraiment trop bien.
En roue libre.
Elle est en roue libre. Non, mais elle est trop bien. Franchement, je suis trop contente que ce soit elle qui fasse ça, en vrai. Et même Kiddy Smile, je trouve que ça fait vraiment une bonne équipe. Et j'espère que ce sera les mêmes pour la saison 2.
En version US, le jury change pas nécessairement tous les ans. J'avais vu ça sur Wikipédia.
Je crois pas, ouais.
Ça évolue des fois, mais c'est pas un jury par saison, quoi. Voilà. C'est peut-être le coup de cœur du mois. Donc, on peut passer à la suite où on va revenir à l'animation.
Oui, on va parler de Spy X Family. Alors, on n'en parle que maintenant parce que j'ai mis 3 plombes à finir la série. Enfin, l'animé.
On n'en avait pas déjà parlé.
Non, on n'en avait pas parlé. On avait attendu que je finisse, justement. Alors, on a regardé la saison 1 qui faisait 12 épisodes, environ 20 minutes. Ça a débuté le 9 avril 2022. Il y avait un épisode qui sortait chaque dimanche sur Crunchyroll. Et ça parle de ça. Twilight, le plus grand espion du monde, vient de recevoir une mission de la plus haute importance. Nom de code, opération Strix.
Strix.
Strix. Son objectif, s'approcher de Donovan Desmond, le chef du parti Nation Unifiée, afin d'enquêter sur ses projets politiques douteux. Pour y parvenir, notre agent super secret doit fonder une famille
super
de toutes
secret.
Pièces afin de s'introduire dans l'école Eden, la plus prestigieuse école de toute l'aristocratie dans laquelle étudie le fils de la cible. Totalement dépourvu d'expérience familiale, Twin Light adopte une petite fille dont il ignore tout, des dons de télépathie, et s'associe avec une femme à l'allure timide, en réalité une redoutable tueuse à gages. Ce trio hors du commun va devoir tout mettre en œuvre afin de ressembler à une famille unie et aimante. Il en va de la réussite de l'opération Strix et de l'avenir du pays tout entier.
C'est beau.
C'est magnifique. Alors, Damien, t'as mis une phrase.
Oui, bah, j'ai mis que j'avais bien aimé.
T'as bien aimé, c'est tout.
Oui. Et si, je me disais, en y repensant, que ça pourrait faire un super drame et un film de guerre. Parce qu'en fait, ça a vraiment lieu entre deux pays en guerre. Ouais, ouais. Il y a une police secrète, il y a des agents secrets.
Oui, ça pourrait être... En vrai, si c'était fait d'une autre façon, ça pourrait être quelque chose de très triste.
C'est le scénario du film Black Widow.
Ah ouais. Il n'y a plus du film Black Widow.
Il
n'y
a pas une enfant télépathe dedans.
Il n'y a pas d'enfant télépathe dans Black
Widow.
Il y a
une enfant super espionne.
Il y a une maman qui tue des gens. Il y a deux enfants
super... Oui.
Et il y a un papa super héros. Et le papa, il est super espion.
Ouais. Désolé.
C'est okay. Ça.
C'est entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre, la guerre froide. Folie. Donc, c'est deux pays en guerre. Et ouais.
Et bim.
En plus, ça fait un peu...
Bon, on revient au sujet.
Oui.
Du coup, moi, j'aime bien parce que là, c'est une adaptation super fidèle au manga. Du coup, tu peux passer de la série au manga en t'y retrouvant totalement. Et moi, j'aime bien ça. C'est super cool de pouvoir découvrir cette histoire sur un autre format, du coup. L'animation est vraiment super cool et sympa. Et j'adore Anya, Lord et Yor. Yor ?
Yor.
Yor ?
C'est son nom.
En plus...
En prénom scandinave, on dirait. Yor.
En plus, les génériques de l'animé sont super, trop cool.
Ils sont dans mes playlists.
J'aurais aimé qu'il y ait plus d'épisodes.
D'ailleurs, la
à
personne
sortir.
Qui a fait le ending de cette oui. saison a fait une chanson lance. Avec Super Organism.
Oh, mais c'est incroyable!
Qui sont très... Bon,
c'est qui?
C'est pas. Un groupe de musique trop bien? Je vous enverrai voilà. La musique.
J'aurais aimé qu'il y ait plus d'épisodes à sortir. J'ai hâte de voir la suite et de découvrir BOM.
Le toutou.
BOM.
Faut arrêter de spoiler des trucs.
D'ailleurs, les nouveaux épisodes ont été annoncés et ça débarquera le 1er octobre. D'ailleurs, je trouve que ça coupe un peu... Enfin, tu vois, ils nous
et
ont
on
introduit cette histoire.
Partie A, partie B.
Ouais, ils nous ont introduit cette histoire de toutou là et bim, ils ont pas mis la suite. Moi, je trouve que ça coupe un peu n'importe comment.
Après, peut-être qu'ils se sont rendus compte que ça allait avoir un succès de ouf parce que c'était vraiment bien. Ils se sont dit, on va en sortir
mais
le plus vite possible.
Mais tu sais pourquoi, à mon avis, en France, ça a été coupé?
Non.
Parce qu'en fait, là, en
chronologie
septembre.
Chronologie des médias.
Non, non, en septembre, il y a le tome numéro 9 qui sort. En septembre, il y a le tome numéro 9 qui sort. En ce moment, il y a du merchandising de fou. Vraiment, beaucoup de choses. Mm. Et je crois qu'en octobre ou en novembre... Non, en novembre, ils refont un coffret collector, mais avec plein de trucs aussi. Donc en fait, ils veulent que ça se vende et ils veulent pas... Enfin, si les gens regardent tout l'animé, ils se disent qu'ils vont pas lire les mangas, tu vois. Mm. Donc je pense qu'ils papotent un peu avec eux.
Tu crois qu'il y a des discussions ou un accord entre la plateforme... Ou le studio qui développe la version française et la maison d'édition.
Moi, je pense que oui. Je pense qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est que la deuxième partie, du coup, jusqu'aux 24 épisodes, ça va arriver jusqu'au tome 9 ou 10. Pas plus, tu vois. Genre, en gros, ça va être pile au moment où on s'arrête en manga. Le manga va s'arrêter un peu près au même moment que l'animé. Comme ça, quand le collector va sortir en novembre, et bah bim, le collector, en fait, ça sera la suite de ce qui se passe dans l'animé et tout le monde va vouloir acheter ce collector.
Notamment toi.
Non, notamment moi. Mais moi, je me fais avoir. D'ailleurs, à partir de mi-septembre, si vous allez dans des magasins de manga, par exemple, qui vendent des produits de Spy Family, si vous achetez deux produits Spy Family, peut-être que vous aurez la chance de gagner un pack de Maxkin Tape aux couleurs de Spice Family.
Par contre, si on balance sur deux choses, il faut qu'on propose un partenariat. C'est pas possible de faire de la pub sans qu'on...
C'est pas de la pub.
Tu viens de faire une pub pour les magasins de manga.
Non, je dis que vous pourrez peut-être avoir du masking tape gratuit si vous achetez des trucs, bien évidemment.
Non, mais voilà, il faut un contrat. Les magasins de manga,
on n'a pas de magasins de manga partout. Ça peut être Cultura, ça peut être partout.
Eh bah, ben, Cultura, un partenariat, allez go.
Je pense pas que ça soit
que les
magasins de manga.
Allez go.
Non, c'est rien.
Mais voilà, le masking tape, c'est la vie.
Envoyez un mail si ça vous intéresse, ce contrat
tout.
À Recapito.
Cette adresse mail n'existe pas.
Non, envoyez à bonplan@recapito.fr.
De pire en pire.
De pire en pire, oui, totalement. Mais retrouvez la suite de l'animé le 1er octobre.
Et regardez le début si vous ne l'avez pas fait.
Parce que oui, c'est j'ai commencé.
Emilien, tu ne l'as pas regardé.
Non.
Tu devrais le regarder, Anya. T'aimerais bien.
Anya.
Je veux bien parier que t'aimerais bien celui-là.
J'aime déjà, ça me met des angoisses rien qu'en voyant les t-shirts.
Pickles.
En voyant.
En plus, Mathilde a essayé de me faire regarder. Et...
En voyant les t-shirts.
Ouais.
C'est comme ça qu'elle dit pickles.
Je sais pas, elle regarde en japonais.
Mais elle dit en cacahuète. Non, elle le dit en même quand elle parle, même quand elle le dit en japonais, elle dit pickles. C'est parce qu'elle adore les cacahuètes.
Ça vous dit qu'on passe à la suite.
D'ailleurs, elle dit cahuète.
Cahuète. Ah.
Le 1 de. Ah. J'ai perdu tout intérêt pour cette histoire.
On passe au film. C'est Mathilde qui en a regardé le plus ce mois-ci.
J'en ai regardé que deux.
Bah, j'en ai regardé qu'un. Et c'était même pas
Il était
même pas très long.
Je vous avoue que j'ai fait un mini, mais vraiment mini marathon de Jane Austen. Minuscule.
De deux films.
Un mini-marathon, du coup.
Un mini-marathon.
Oh.
À 10 km.
un kilomètre 5.
Une populaire. Bah, minuscule. Une populaire. Une populaire, en général, c'est 10 km.
Bah, arrêtez. En tout cas, voilà, j'avais envie. 5, c'est... En plus, je me suis fait ça sur deux week-ends. Genre, le premier week-end, j'ai regardé un film. Et le week-end d'après, je me suis dit, oh, c'était vachement bien le week-end dernier quand j'étais posée à train de regarder un petit film de Jane Austen, là. Et bim, j'ai refait.
Tu
sais que t'as
à dire, j'ai regardé deux dans la même soirée. Mais non, deux en deux week-end. C'est même pas très drôle.
Mais j'avais qu'un jour de congé pendant ce mois-là. Du coup, c'était pendant mon seul jour de congé, je regardais mon film de Jane Austen.
Ah, j'ai compris,
mon...
15 jours de congé. Non, je me disais,
ça s'appelle des vacances, du coup.
One. Un seul. Alors, j'ai regardé Persuasion, qui est sorti... le silence de la mort.
Back.
Qui est sorti le 15 juillet 2022, donc c'est presque une nouveauté. Presque.
Ah non.
À un mois près. Bah, dommage. Ouais.
Il fait 1h49, il est dispo sur Netflix. Je vous conseille grandement d'aller le regarder. C'est un film réalisé par Carrie Cracknell avec Dakota Johnson, Cosmo Jarvis et Henry Golding.
Cosmo ouais. Jarvis, c'est hyper stylé comme nom.
Persuasion, ça parle d'un homme séduisant qu'Anne Elliot a été forcé d'éconduire 8 ans auparavant. Il refait éruption dans sa vie. Saisira-t-elle cette seconde chance de vivre son grand amour? Ah ouais, ok.
Non, mais...
C'est tout.
Pas du tout. Alors, en fait, j'ai bugué, j'avoue, un peu sur le mot éconduire. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais c'est bon, j'ai compris.
Alors, j'ai pas lu Persuasion de Jane Austen. Il est dans ma bibliothèque. On me l'a offert il y a pas très longtemps. J'ai hâte. C'est vrai, en plus. Mais j'ai adoré cette adaptation. Dakota Johnson est incroyable dans le rôle d'Anne Elliot. Vous voyez qui c'est, Dakota Johnson ?
C'est la meuf de 50 nuances de Grey.
C'est exact, c'est elle. Et bah, oubliez-la. Oubliez-la dans ce film et regardez Persuasion.
Elle est incroyable, mais oubliez-la.
Non, oubliez-la.
C'est un truc horrible.
Oubliez-la dans 50 nuances de Grey. Oui, ce film,
j'ai pas vu 50 nuances
il est vraiment pas ouf. Elle a un personnage plutôt pourrave. Oui.
Bah, c'est tout l'œuvre qui est pourrave.
Non, mais bon, voilà, ça lui rend
ouais.
pas justice.
C'est pas que elle.
Non, mais ça rend pas justice à son talent, c'est ça que je veux dire. Et bah, dans ce film-là, quand elle joue le rôle d'Anne Elliot, elle est vraiment trop bien. Son jeu est extra. Les costumes et les décors d'époque sont bien évidemment sublimes. Et j'ai vraiment aimé la réalisation. Il y a souvent des moments où le personnage d'Anne casse le quatrième mur et nous parle. Alors qu'il y a d'autres gens qui lui parlent en même temps, par exemple, ça fait vraiment des passages très, très marrants, c'est super plaisant. Et il y a plein de petites choses comme ça, visuellement, c'est vraiment super bien fait. J'ai adoré. C'était pas du tout un film d'époque traditionnel. Ça m'a un peu fait penser à... C'était comment le film qu'on avait vu ? La Servante ? Non. Avec Emma Watson.
Non, Emma Stone.
Emma Stone, oui.
C'est il y a un truc avec la première, je sais plus quoi.
Non, c'est pas la première. Oui,
First
bon.
Kill.
Non. Hein non, c'est
la première.
La
c'est pas la maîtresse.
Non, c'est la meuf.
La servante écarlate.
Alors là, tous c'est
la maîtresse du temps.
La favorite.
La favorite, exactement. Bah voilà, c'est un peu dans le même genre, mais peut-être ouais, c'est dans le même genre. J'ai beaucoup aimé. Ce film reprend tout ce que j'aime dans les histoires de Jane Austen, du féministe, des propos avant-gardistes, de l'humour et de l'amour. Tout ça avec une photographie maîtrisée qui donne envie de voyager dans le temps. c'était extra. Regardez ce film, c'était trop douillet, c'était... Oh, c'est trop bien.
Ah mais il faut que tu ailles voir Le Visiteur du Futur si tu veux voyager dans le temps.
Exactement.
Malin. Je suis pas sûr que tu arrives à arriver dans la... Dans le... Ça se passe quand? C'est en Angleterre victorienne?
Je crois.
1815 environ. Les années 1800.
C'est à peu près ça, non?
Bah, c'est pendant la reine.
En tout cas, je continue d'aimer Jane Austen. Amour inconsidérable.
De 1837 à 1901, le règne de la reine Victoria. Donc, c'est ça.
Est-ce que je peux
continuer? Oui, bien sûr.
Alors, du coup, on passe au deuxième film. Bien évidemment, quand j'ai vu Persuasion, je me suis dit, oh, j'ai envie de continuer dans mon trip et de regarder d'autres choses de Jane Austen, d'autres adaptations. Du coup, j'ai regardé Emma. Emma, qui est également issue, bien évidemment, du roman de Jane Austen, sorti en 1815.
T'as changé de ton un peu,
quel
là.
Quel moment on est arrivé sur France Culture, en vrai?
Elle n'a pas vu venir.
Je me fais des petits trucs pour essayer de vous amuser, ça marche. Du coup, Emma est sortie le 27 mai 2020. Je crois qu'il était sorti au cinéma.
Je check, vas-y, tu peux continuer.
Il fait 2h05 et il est disponible sur Netflix également, si vous voulez le voir. C'est un film réalisé par Autumn de Wild.
Que des gens avec des noms marrants, quand même.
Avec Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn et Joss O'Connor. C'est donc l'adaptation du roman de Jane Austen sorti en 1815. Emma Woodhouse tente de faire rencontrer leurs âmes sœurs aux célibataires de son cercle d'amis. Ça raconte ça.
C'est une marieuse.
Ouais, c'est un peu comme si c'était une marieuse, mais elle, elle est célibataire et elle habite chez son père.
Et elle rencontre quelqu'un du coup.
Peut-être. Bon, après avoir eu un énorme coup de cœur sur Persuasion, je me suis dit encore. Alors j'ai lancé Emma, qui était également disponible sur Netflix. Le film m'a moins plu que Persuasion.
Mais est-ce que c'est pas l'enchaînement? Mais... Si t'avais fait de l'autre sens, ça se trouve.
Voilà, c'est ça. Bah, j'aurais peut-être plus apprécié Persuasion. Mais en fait, c'est pas étonnant parce qu'il a quand même 2 ans de moins. Donc il est moins. Je sais pas comment dire.
Neuf.
Ouais, il est moins neuf, mais il y a moins de. Je sais pas comment dire, tu vois. Il y a pas. Enfin, photographiquement, par exemple, il joue moins sur des trucs. Il est peut-être moins fait.
Moins abouti.
Moins abouti, moins amusant. Tu vois, peut-être que les gens ont pas trop voulu s'amuser avec ce film. Ils ont vraiment voulu faire un truc, une adaptation. Voilà, c'est juste une adaptation. Alors que dans l'autre, tu sens vraiment que la personne adorait Jane Austen et elle a voulu lui rendre hommage et faire quelque chose de marrant, quelque chose qui représente vraiment Jane Austen. Je sais pas comment expliquer. Donc là, c'est plus sobre, en fait, comme adaptation. Mais c'est quand même vachement sympa. Et j'ai adoré l'histoire, les costumes et le personnage d'Emma m'a beaucoup touchée. Je suis un peu une fangirl, donc de toute façon, je pense pas que ça aurait été possible que je dise « Ah non, j'ai détesté » ou « J'ai pas aimé ». Non, j'ai aimé, c'est une adaptation de Jane Austen, c'était sûr que j'allais aimer.
Il peut y avoir voilà. Des adaptations horribles, mais...
Peut-être, mais voilà, j'arrive pas à... Et le point positif de cette œuvre, évidemment, c'est bien évidemment le compagnon qu'elle trouve à la fin, qui renonce à tout pour vivre avec elle. Et il dit, bon, bah, tu veux continuer à vivre avec ton père parce que tu veux pas le laisser tout seul, bah, moi, je vais venir habiter avec vous, pas de problème. Enfin, c'est... On se rend pas compte, mais en fait, à l'époque, c'était totalement impossible qu'une chose pareille arrive. Un homme qui quittait son domaine, sa fortune et tout, pour aller habiter chez une femme... qui est son père, enfin, c'est des choses que... inconcevables, voyons. Et je trouve ça trop bien.
Il y avait un indice sur est-ce que c'est sorti au cinéma ou pas. 27 mai 2020.
Il n'y avait pas grand-chose au cinéma.
Il n'y avait pas grand-chose d'ouvert.
Ah, c'était le Coco ?
Oui, ça a été... sorti, c'était prévu au ciné, puis c'est sorti sur les plateformes pour finir.
D'accord.
Interdit de dire le Coco.
Interdit. Je vais enchaîner.
Même pas
et
pour les coquelicots.
Avec un mini-film.
Pour la noix de coco, la limite.
Ça se trouve, c'est même pas un long métrage. La c'est peut-être un moyen métrage. C'est Lego Star Wars, c'est l'été. Je veux envie de le regarder. J'avais que ça à faire en mangeant. C'est sorti le 5 août 2022. C'est donc une nouveauté. Ça dure 45 minutes et c'est dispo sur Disney+. C'est réalisé par Ken Gunningham. Et le résumé. C'est l'histoire a lieu après les événements de Star Wars 9. On y retrouve Rose, Rey, Finn, Poe et Chewbacca qui vont s'offrir une pause ensoleillée bien méritée après avoir vaincu Palpatine, évidemment.
Ça n'a aucun sens.
C'est les fins d'animé où ils font un épisode où ils vont tous à la plage.
À la plage.
Et une intrigue nulle.
Tout au long de ce spécial, ils visiteront d'autres lieux emblématiques de Star Wars tout en interagissant avec différents personnages de la franchise. notamment C-3PO, Lando, Boba Fett. Lando apparaît de nom de famille d'ailleurs. Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Jabba le Hutt, Anakin Skywalker, Dark Vador, Kylo Ren, Finn, Han Solo, Leia et Palpatine.
Bah, pourquoi ne pas croiser et papoter avec Dark Vador? Moi je comprends pas, c'est normal.
Personne papote avec Dark Vador.
Et avec Kylo Ren aussi, parce qu'ils sont tous au même moment, au même endroit, et le temps n'existe pas dans cette.
Parce qu'en fait c'est rempli de flashbacks.
Ah d'accord.
Par exemple, est-ce que vous avez déjà appris. Pourquoi la planète, on va dire, avec les belles plages de Rogue One, comment c'est devenu cette base impériale? C'est parce que l'empereur et Dark Vador sont allés faire du tourisme là-bas et l'empereur a dit je veux une base ici parce que j'aime bien. Et voilà, c'est de la merde.
D'accord. Et ben c'est très bof ce truc là.
C'est très peu justifié.
C'est vraiment nul. C'est pas très passionnant, c'est pas très drôle, c'est pas très bien écrit.
Je sais pas, Dark Vador fait du tourisme.
Dark Vador, ouais. La seule chose en parlant de Dark Vador qui fait plaisir, c'est de voir, de constater petit à petit la réhabilitation de la prélogie. Parce qu'après l'avoir revu dans Obi-Wan Kenobi, on revoit Anakin Skywalker, qui est doublé toujours par Emmanuel Garijo et qui est beaucoup plus proche de Jack Peralta dans son doublage que d'Anakin Skywalker.
J'adore
vraiment,
ça.
C'est Jack Peralta qui parle, c'est pas du tout Anakin. Il fait des blagues, il a un ton très léger.
Mais c'est l'ego. Hein.
Il fait de la plongée gens. Sous-marine, pour de vrai.
Mais des fois, d'ailleurs...
Il y a une blague, la blague de son apparition, il sort de l'eau avec une bouteille de plongée pour qu'il respire comme Dark Vador et que Finn ait peur.
Mais d'ailleurs...
Parce que c'est un fantôme en plus. Évidemment, les fantômes de force ont besoin de bouteilles de plongée quand ils font de la plongée.
C'est nul. C'est nul. C'est nul.
Mais moi, j'aime bien que le fait que ça soit la même voix pour Anakin Skywalker et Jack Peralta. Parce que franchement, des fois, ça me donne des fous rires.
Oui, c'est vrai.
Quand il dit je suis ton père ou des réflexions comme ça, moi, j'en...
Mais non, c'était. Pff, c'est... J'ai même pas envie de dire que les enfants pourraient regarder ça parce que.
Si vous savez pas qui est Jack
mieux.
Peralta, c'est un personnage de Brooklyn Nine-Nine.
Exact. C'est vrai qu'on en parle, mais voilà.
Connaît Jake.
C'était pas très bien. On peut enchaîner avec la suite. Et cette fois, on a regardé des documentaires.
Non.
Bah, moi, si. J'ai regardé un documentaire, une série documentaire. J'ai envie de prendre un peu de temps pour en parler, parce qu'il y a deux, trois trucs importants à dire. Il s'agit de Champion, la saison 1, qui était sortie en juillet 2021, qui contient 8 épisodes de 25 minutes, et c'est dispo sur France.tv. Et c'est réalisé par Florent Baudin. Dans cette série documentaire, on suit 9 jeunes de l'INSEP, l'Institut National du Sport, qui forment les champions et les championnes de demain. Il y a 2 boxeurs, une judoka, 2 athlètes, 2 gymnastes et un basketteur. On suit leur quotidien, leurs réussites, leurs échecs, leurs blessures, leurs défaites, à travers leurs yeux et ceux des adultes qui les encadrent. Et donc j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour en parler parce que j'ai pas aimé ce documentaire. Mais surtout, il m'a profondément gêné. Parce que le problème de Champion, c'est que ça n'aborde que les valeurs de travail et de sacrifice. Et c'est mon problème plus globalement avec le sport aujourd'hui et, avec la manière dont on présente nos sportifs et nos sportives. Parce que pour moi, la série, elle ment. Elle ment aux jeunes qui la regardent et qui rêvent de devenir des champions et des championnes. Non, c'est pas seulement parce qu'on s'entraîne 5 heures de plus que les autres tous les jours de la semaine qu'on devient champion ou championne olympique. Et quant au sacrifice, la série parle des familles des athlètes, mais ne présente que des entourages unis et sains qui offrent des environnements équilibrés. Et la série n'aborde jamais la difficulté de l'éloignement. Et quand elle en parle, bah, c'est pour dire « Oh bah je vois mes copines 2 fois par an, mais c'est trop bien ». Donc en gros, ça fait croire que à chaque fois, les amis
c'est
acceptent.
Normal, ouais.
Voilà, c'est normal. Quand la série aborde la pression quotidienne que ces jeunes subissent à l'INSEP, c'est pour la rendre légitime. En fait, la série, elle aborde jamais la santé mentale des athlètes autrement qu'à travers l'adage éclaté « no pain, no gain » qu'on traduit par « pas de souffrance, pas de victoire », qui est un peu aussi un adage que la société reprend régulièrement. Pas besoin de vous dire que la série ne parle pas du tout non plus des cas de violences sexuelles que subissent des jeunes femmes et des jeunes filles au sein de l'INSEP. Ça, j'ai un peu attendu ça tout le long, mais il n'y a jamais rien. On dit même « oh bah l'INSEP, c'est un peu une société, donc du coup, bah, on y retrouve... ce qui est bien dans la société et ce qui est mal dans la société. Voilà.
Facile,
mais tout voilà. C'est le directeur de l'INSEP qui dit ça, mais c'est normal. Et j'ai fact-checké, c'est pas genre un cas, c'est depuis des dizaines d'années, il y a des femmes qui portent plainte
pour des violences sexuelles, et il y en a encore et aujourd'hui, enfin, c'est régulièrement, et c'est un cas assez nombreux de femmes pour dire qu'il y a un problème à l'INSEP. À titre de comparaison, la série Cheer que Mathilde a regardée sur Netflix me paraît beaucoup plus honnête. Tu me dis si j'ai dit des bêtises, car en plus de parler des entraînements des jeunes, elle part de la pression que toutes et tous n'arrivent pas à toujours à supporter. Elle parle de leur environnement familial et social qui permet à certains et certaines d'atteindre leurs objectifs quand d'autres n'ont pas cette chance. J'ai raison, j'ai pas dit de bêtises.
Oui, et elle parle aussi des problèmes qu'il y avait au niveau du harcèlement ou de la pédopornographie ou d'autres problèmes.
Oui, il y a eu un cas très grave et,
non, mais même,
et la série l'a abordé.
Même tout.
Ça arrive souvent. Ah oui, de pédopornographie par rapport
pédopornographie ou même, d'entraîneurs qui abusaient des personnes. Enfin, ils en ont parlé vraiment parce qu'en même temps, ça arrivait. Donc voilà. Mais ils ne pouvaient pas mettre ça sous le tapis. Mais en tout cas, ils en ont parlé.
Ok. En fait, pour conclure, Champion, oui, pardon.
Champion, ça parle d'athlètes que français ?
C'est que des Françaises et des Français.
Je pense que c'est aussi lié à ça, parce que le sport n'est pas du tout vu de la même façon aux États-Unis. Non. Là où, par exemple, les sportifs de cheer ont des bourses pour être dans ces universités et représenter leur couleur, en fait, et où le programme sportif est vraiment créé. En gros, leur programme est d'abord sportif et après, les études se créent autour. Enfin, tout est adapté pour qu'ils puissent faire leur sport à haut niveau, quoi. Et il y a des boursiers, enfin, il y a des trucs vraiment particulier. Il y a même certaines familles qui déménagent pour être avec leurs enfants, tu vois, pour qui deviennent des sportifs de haut niveau. Enfin, c'est pas du tout la même chose qu'en France où on n'a pas des choses comme ça en France.
Bah, pour le coup, l'INSEP, c'est un peu ce qu'il y a de plus américain dans la manière de faire, de construire des champions et des championnes, dans le sens où c'est un immense complexe où c'est principalement pour faire du sport et on construit les études. Mais c'est même pas des études, c'est que... alors je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est principalement jusqu'au niveau lycée. Il me semble que quand t'es majeur, tu peux toujours t'y entraîner, mais tu peux plus y loger, tu peux plus... etc., etc.
Ouais, que là, le cursus universitaire aux États-Unis
est
fait pour ça.
Ouais, donc c'est même pas universitaire.
Après, il doit y avoir des choses qui existent aussi pour les niveaux universitaires. Mais
il y a beaucoup d'athlètes qui partent aux États-Unis à cause de ça.
Ouais.
Parce qu'ils ne sont pas suivis au niveau universitaire. Ils doivent choisir soit faire des études ou soit faire du sport, en fait. Donc, ça devient complexe.
Donc, en fait, pour conclure, Champion, c'est une immense pub de 8 fois 25 minutes pour l'INSEP et rien de plus. Voilà.
Et il y a une saison 2.
Il y a une saison 2 et je n'ai pas envie de la regarder.
Et il a aussi fait un documentaire sur Tony Parker, Florent Baudin.
Ah oui.
Un autre sur Maître Gims et un sur le cas Benzema.
Ah bah sur
le cas Benzema.
Littéralement avec la lettre K.
Ah parce qu'il s'appelle Karim ou Lolo.
Est-ce qu'il y a des femmes interviewées dans ce reportage ?
Lequel ? Celui sur Benzema ?
Non, dans les champions.
Bah j'ai dit déjà, on suit une judoka.
Ah oui.
Donc c'est une fille. Il y a deux gymnastes, c'est des filles. Et il y a deux athlètes.
Alors,
et il y a une fille.
Il parle jamais des problèmes de la gym. Avec les problèmes de harcèlement sexuel et tout ça.
Ah non, je te dis, par rapport aux violences comment et au harcèlement sexuel, il n'y a absolument rien. Et il y a juste un moment où on peut parler, ça, c'est un petit peu un débat, on va dire, qui parle du corps des femmes. Voilà, je vais essayer de le dire comme ça. C'est quand il y a une des deux gymnastes qui rentre dans l'adolescence et elle raconte que son corps change. Elle passe d'un corps d'enfant à un corps de jeune femme. Et donc, c'est abordé juste pour dire qu'elle, il faut qu'elle s'habitue à ce nouveau corps quand elle fait certaines figures, certains agrès, parce que son corps se comporte différemment, parce qu'elle est plus lourde, parce qu'elle est... etc., etc. C'est le seul moment où on parle de choses un peu féministes avec ces deux gymnastes.
C'est peu.
Tout ce qui est problématique, on n'en parle jamais. Jamais, jamais. Et c'est problématique, justement. Voilà. Je vais enchaîner direct. J'ai regardé un spectacle. J'avais promis d'en regarder. J'ai regardé sur Netflix La plus drôle de tes copines. C'est un one-woman show qui est sorti en 2019 de 54 minutes de Fadila Camara. Et donc, je tiens ma promesse grâce à Fadila Camara, que je ne connaissais pas du tout avant que Damien me rappelle. C'est toi qui me l'avais rappelé, je crois. Que je l'avais vu dans LOL qui ressort. qu'on avait regardé l'année dernière.
Je t'avais surtout dit que c'était la compagne d'Hakim Jemili.
Et c'est là que j'ai fait le lien, parce que je me rappelle qu'il y avait la compagne de Hakim Jemili dans l'émission. Et en fait, j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le catalogue Netflix de stand-up en français. Ouais. Et là, sur le moment...
Canal est mieux pour le coup.
Voilà. J'étais tenté de regarder Farid, parce que lui, je le connaissais, mais j'ai envie de regarder une fille, parce que j'avais envie. Et c'est très bien, en fait, ce spectacle, parce que la durée d'à peine une heure est idéale et évite tout flottement. Le rythme est toujours très bien. Il n'y a jamais de moment où tu... Oh, j'aimerais bien que... On passe au sketch suivant. Tous les sketchs et toutes les blagues font mouche. Il n'y en a pas qui tombent à plat, justement. Mais il n'y a pas non plus de méga punchline qui retourne l'auditoire et nous derrière nos écrans. Fadili Camara, elle est très très chouette. Elle a la pêche, elle parle bien, elle est rafraîchissante. Son spectacle parle pas mal de ses origines guinéennes, sénégalaises et marocaines, de sa culture, de sa famille, de son rapport à la société française. Donc en plus, j'ai personnellement trouvé ça très intéressant. Et le stand-up parle en général souvent de ces thématiques, mais c'est bien de découvrir ce discours sous les prismes de l'humour. Voilà. Et on l'avait déjà dit après avoir regardé Drôle, mais ça donne toujours envie d'aller voir des comédie clubs à Paris. On aura des choses à faire quand on ira à Paris. Hein. Voilà. On peut passer à la suite.
Oui.
En écoutant la bande-annonce du sujet du mois.
Votre monde éveillé est modelé par les rêves. Des rêves et des cauchemars que je façonne et qu'il me faut contrôler. Il est allé à ma recherche, c'est ça ?
Vous rendez-vous compte des dégâts qu'il pourrait causer ?
J'ai besoin que tu m'aides. Si les rêves disparaissent, l'humanité s'éteindra.
Je me passerai bien de rêver pendant quelque temps. J'ai pas eu une nuit correcte depuis des lustres.
Je n'ai pas l'intention d'arrêter tant que je n'aurai pas changé le monde.
Alors dis-nous, quel pouvoir pourrait avoir les rêves en enfer ?
À un moment, j'ai envisagé de claquer la porte. Mais j'ai un travail à accomplir. Alors je le fais.
Les choses ont évolué.
Vos yeux vont tout me raconter. Tous vos sentiments, toutes vos pensées. Mes créations n'arpentent pas le monde éveillé en tuant des mortels pour le plaisir. Vous croyez que les rêves ne peuvent pas mourir ? On n'a qu'à vérifier.
Les cauchemars n'ont pas leur place dans le monde éveillé.
Il s'avère que j'y suis très à l'aise.
Les rêves ne peuvent pas mourir, putain de merde.
Comme l'a dit les dernières subtiles paroles de la chanson, on a regardé Sandman, non, une série.
C'est comme la chanson.
Hein? Sandman. une série créée par Alan Heinberg, réalisée par Alan Heinberg, David S. Goyer et Neil Gaiman. C'est de l'adaptation du roman graphique The Sandman de Neil Gaiman. Je vais répéter tout le temps les mêmes trois noms. Sorti entre janvier 89 et mars 96. C'est hyper vieux, je ne me rendais pas compte. Aux États-Unis.
Plus jeune que nous, mais...
C'est plus vieux que...
Bon, 96,
c'est né en 89. Ouais. C'est sorti dans le label Vertigo, qui est une collection DC Comics spécialisée dans les comics fantastiques et horreur. Elle a fermé en 2020 depuis.
Oh, merde.
Voilà, pour la bad news. Les 10 albums sont composés soit de contes autonomes, soit d'une longue histoire divisée en chapitres. Je le mets parce que ça a son importance.
Mm-hmm.
Ces récits sont très différents les uns des autres. Il y a même, c'est à chaque fois un dessinateur différent. Donc c'est vraiment différent jusqu'à le dessin. Mm-hmm. Et le seul rapport, c'est ça parle des infinis. et des mêmes concepts à chaque fois de la psyché humaine. Pour un peu d'historique, entre 2013 et 2007, Joseph Gordon-Levitt, oh là là, personne Levitt. Galère autant à dire ce nom, a travaillé sur une adaptation pour le cinéma qui a fini par tomber à l'eau. Et je m'en suis rappelé.
J'adore.
Parce que c'était. Oui, évidemment, tout le monde l'adore. C'était à l'époque où je regardais l'émission Fanzone.
Tout le monde l'adore.
Tout le monde l'adore. Il nous écoute.
Il nous écoute.
Joseph.
Le petit Joe.
Et en fait, quand je regardais l'émission Fanzone sur Allociné, et ben en fait, c'était un vrai feuilleton, justement.
Je connais pas l'émission.
C'était une émission d'actu. C'était pas mal. Et donc, ce projet est tombé à l'eau. Un scénariste nommé Eric Heisserer récupère l'écriture du projet, puis claque la porte au bout de quelques mois en disant que l'œuvre serait plus appropriée pour être adaptée en série de qualité à la HBO. Est-ce que vous voyez pas les choses se mettre en place ?
Non. Ah, c'est ce qui s'est passé.
Neil Gaiman, créateur du comics, a partagé cet avis. Après plusieurs prospections auprès de diffuseurs, Warner Bros. Television trouve un don HBO. Le don HBO est pas arrivé au bon. Warner Bros. A sollicité aussi HBO qui a dit non. Donc trouve un accord en 2019 avec Netflix pour créer une série Sandman. La plateforme étant prête à dépenser un budget important. C'était à l'époque vraiment où Netflix était à full budget et c'était le bon temps. Neil Gaiman et David S. Goyer en seront les producteurs. Un soin particulier a été porté sur l'adaptation dans le but de la détacher de l'univers DC Comics. Il n'y a plus aucune référence aux super-héros, à part quelques figurines qu'on voit vite fait. Moi je les ai vues. Si quand on voit Jed, il dit faut pas l'oublier, je crois, et en fait il prend une figurine de Batman ou de Superman ou de Flash, je sais plus.
Ah ouais, enfin,
voilà, c'est les seuls refs. Alors que dans le comics, y a des personnages de on va dire de la Justice League, de tout cet univers qui interagissent, et Sandman fait des trucs avec la Justice League aussi.
Bah, comme une. Non, je réfléchis au ref, mais il y a quand même juste le petit gamin qui est.
Qui est un super héros, mais ouais. Qui c'est tout.
Mais qui a quand même une espèce de Batcave avec quelqu'un qui. Lui...
Sa Batcave est trop cool.
Ouais.
Et aussi, l'adaptation cherche à moderniser du coup la série, notamment vis-à-vis de ses personnages. C'était le créateur de la série qui a dit « Si nous devions créer ce personnage maintenant, quel serait son genre ? Qui serait-il ? Que ferait-il ? » C'est pour ça qu'on a, par exemple, John Constantine qui devient Joanna Constantine, Mor qui devient une femme noire, alors que dans le comic, c'est une femme blanche, ou Désir qui devient une personne non-binaire.
Lucifer.
Alors, dans les recherches que j'ai vues, il n'y a pas cet exemple sur Lucifer, et je ne sais pas, peut-être que Lucifer était déjà une femme dans le comics. Je sais pas. Voilà, les trois exemples qui sont cités, en tout cas, sont des personnages qui ont évolué, j'en suis sûr, j'ai vu des images, qui ont évolué par rapport aux comics. Donc, la série est sortie le 5 août 2022. Elle compte 10 épisodes de 45 à 50 minutes, plus un épisode bonus d'une heure. C'est sorti sur Netflix, évidemment.
Ça parle de chat.
De chat et d'un truc qui s'appelle Calliope, mais qu'on n'a pas encore regardé. C'est avec Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Vivienne Asha... Oh putain, je l'avais révisé pourtant, pardon. Asha Pong, Jenna Coleman, oui. Gwendoline Christie, David Thulis, Evan Nsou, Samouniai. Voilà. C'était un long contexte, mais il y avait plein de trucs intéressants à dire, je trouvais. Est-ce que vous voulez... Qui veut commencer ?
Moi, je crois que j'ai écrit quelque chose.
Je crois.
T'essaies de mettre...
Si, j'ai écrit, mais j'ai pas... Je vais...
Est-ce que tu vas pas rebondir ?
Non, c'était pas le mot. Je vais tisser. Le début était plutôt lent.
Le Spider-Man du podcast.
Oui, c'est moi. Le début était plutôt lent, même si dès... Le début de la série, moi, j'ai tout de suite aimé la photographie et ce que ça racontait. Enfin, j'ai trouvé que l'univers me plaisait, même si c'était lent. À part l'épisode 2 qui m'a un peu saoulée parce que c'était vraiment très lent, alors qu'il faisait que 37 minutes, ce qui était plutôt étonnant.
Que 37
étonnant.
Minutes.
Oui, le deuxième épisode
contemplatif.
Était très, très, très lent. Mais j'ai quand même aimé ce que ça racontait. C'était un peu étrange. mais vraiment super intéressant, principalement les épisodes 5, 6 et 7 que j'ai beaucoup aimé moi. Les thématiques étaient cool, c'était pas juste un méchant et une série, enfin comment dire, c'est pas juste un raconte, ouais, il y a un méchant, il y a une histoire, il attrape le méchant et hop, c'est fini, tu vois, comme un truc de super-héros normal. Là,
il y a plein de méchants.
C'était toujours nuancé. Ouais, et en fait, tu sais pas du tout, genre Morpheus, en fait, il est pas que noir ou que blanc, enfin, il est pas méchant ou gentil, tu vois, c'est oui. plus compliqué que ça à chaque fois.
Il est ni de gauche ni de droite.
Voilà, là, tu t'engages sur un terrain glissant. Ouais.
Mais tu vois, enfin, il y a, et même les méchants qui interviennent tout au long de cette saison, ils sont pas réellement méchants, ils ont. Enfin, la vie a fait qu'ils, ouais, ils ont des raisons, des trucs qui font que, à part les tueurs en série, hein, eux par contre c'est des gros bâtards. Hein. Mais j'ai aucune.
Mais si, on a l'explication quand même. Enfin, c'est le cauchemar qui les manipule.
Pas... Oui et non. Enfin, ils sont quand même comme ça de base.
Oui, mais en fait,
c'est oui, il a eu 100 ans. Il a eu 100 ans pour les.
Mais en fait, à la fin, c'est ça. Morpheus dit que comment il s'appelle, bah, le cauchemar leur ôtait toute culpabilité.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que c'était des tueurs en série avec une soif sans fin de sang.
Mais tout ça pour dire que c'était vraiment super intéressant, c'était philosophique, ça racontait plein de choses sur l'humanité. J'ai beaucoup aimé l'épisode avec la mort. Enfin,
oui,
sa sœur qui incarnait la mort. J'ai beaucoup aimé l'épisode 5 qui se passe dans le dîner. Il est super bizarre, mais il raconte vachement de trucs. Oui, j'ai dit le 6 et après le 5.
Non, c'est celui où t'as pas vu beaucoup.
Mais non, en fait, si, j'ai vu tout l'épisode. C'est juste le final qui est...
Oui, c'est vrai.
En fait, le final part presque en film d'horreur.
Oui,
quoi,
tu t'es caché
fait.
Les yeux. Oui.
Oui, je me suis caché les yeux parce que c'était d'une violence sans nom. Mais tout le reste, tout ce que ça raconte, le fait que si on devait tous dire la vérité, bah, peut-être qu'on vivrait dans un monde où certes il y aurait la vérité, mais on pourrait pas vivre ensemble parce que le mensonge, mine de rien, permet à chacun d'avoir une bienséance ou de se respecter ou de pas trop entamer les libertés de l'autre, etc.
C'est hyper philosophique en fait comme discussion et comme sujet de, enfin comme traitement, et même l'épisode essaye pas vraiment d'y répondre, c'est juste à deux idées qui se confrontent. T'as l'idée de John Dee et l'idée de Morpheus.
Mais du coup, moi, j'ai vraiment aimé ça, tous ces points de vue philosophiques. Enfin, je trouve que la série, c'est vraiment une série sur la philosophie de vie, sur l'humain, sur tout. Et quand ils disent qu'en gros, Morpheus qui rappelle que bah, eux, ils sont là juste pour servir les humains, même si bah, ce sont des dieux malgré tout, mais au final, ils sont là pour les servir et que sans les humains, bah, eux n'existeraient pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, ça tourne un peu en rond, c'est un peu le serpent mais qui se mord la queue. Et je trouve ça super intéressant.
Tu dis dieu, mais je crois qu'on les appelle jamais des dieux en plus.
Non, mais il y a un dieu.
Ouais, mais on les
non,
appelle
on les
jamais
appelle
des dieux.
Éternels.
C'est ça, mais enfin, je veux dire que ça dieu. A son importance dans ce que tu dis quand Morpheus explique qu'on est là pour servir les humains. C'est même pas des dieux en fait. C'est le fait qu'on les appelle jamais des dieux, ça les place jamais au-dessus. Parce que dans le côté dieu, il y a côté divinité où on est au-dessus, on est dans le ciel.
Bah,
on domine l'humanité.
Mais il y en a un, parce que Lucifer, à la fin, elle parle
oui.
d'aller jusque...
Bah, y en a... enfin, je ne sais pas si l'univers de Neil Gaiman il est tout le temps étendu et si tous ces romans sont ensemble, mais en fait, il y en a même plein. Et...
Oui, parce que si c'est lié à... Comment ça s'appelle ?
Good Omens.
Ah ouais, American Gods, j'avais regardé les premiers épisodes, mais c'est vraiment incroyable aussi. Enfin, c'est une série que je devrais largement continuer. Et j'ai vraiment trop kiffé. Et visuellement, je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est une des séries les plus belles que j'ai vues. La photographie est vraiment super soignée à chaque épisode. Même quand il y a des images de synthèse ou des trucs irréels, c'est vraiment fait avec un soin de ouf. Genre quand ils sont dans le monde des rêves, où il y a l'espèce de gros monstre là, avec la princesse, je sais plus quoi. Je sais pas si vous voyez le gros monstre qui marche là. Il est trop bien, enfin... Il y a plein de trucs complètement farfelus et ça marche super bien. Et j'ai adoré l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Sandman. Il est charismatique de ouf et ce rôle, il est fait pour lui, quoi. On dirait une gravure de mode, en fait, le mec. Enfin, je trouve que
il a ce côté, il est très graphique.
Il a ce côté mode, il est très grand, très fin et il est habillé trop bien. J'adore ses longs manteaux noirs avec ses grosses Doc Martens, c'est trop cool. Ouais, c'était le moment mode. Voilà, j'ai trop aimé.
Damien, est-ce que tu veux dire quelque chose ou rebondir à ce qu'on dit ?
Oh, je vais continuer.
Tu rebondis.
Je pense à peu près la même chose que Mathilde. J'ai eu beaucoup de mal au début. Bon, moi, c'est même les 4 premiers épisodes qui m'ont vraiment ennuyé. Je trouvais ça très très lent et je trouvais même que ça s'écoutait un peu parler. En mode, on sait qu'on raconte des choses intelligentes, donc on va se kiffer à s'écouter. Ça faisait un peu France Culture là-dessus. Et puis l'épisode 5 est arrivé et tout a changé. C'était brillant. L'épisode 6 est tout aussi grandiose. Donc l'épisode 5, c'est dans le diner. Et l'épisode 6, c'est avec Mort. Et avec ce fameux personnage immortel qu'on recroise tous les 100 ans.
Et où on n'a même pas l'explication finale.
Non, ça, c'est l'épisode 7.
Non, c'est le 6. Le 7,
non, c'est dans 2 épisodes différents.
Non, justement, c'est très surprenant. T'as toute la partie avec Mort, c'est sur la première moitié. Et la suite, c'est... je te jure que c'est dans le même épisode. Et là, j'ai vérifié l'épisode 7, justement. C'est où on découvre Rose, oui, et Jed qui lance le fil rouge final.
Ah, j'avais pas l'impression que c'était dans le même.
Non, justement, c'est très surprenant que ça soit.
Parce qu'ils le font ensemble, cette histoire de Paris, c'est quand ils le croisent
oui,
une
oui.
première fois.
Oui, et puis en plus, on voit une fois que Mort s'en va, il dit j'ai un truc à faire, et là, il va devant le pub qui est en destruction. Et donc là, tu vois le flashback où il arrive en 1389. Et c'est peut-être la partie que j'ai le plus aimé, cette rencontre centenale avec... Bah, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant, toutes les discussions qu'il y avait à chaque fois.
Truc, quoi.
Ça et vraiment, on a halluciné quand on s'est... Bon, on voit les époques qui évoluent et on fait, putain, mais le gap qui s'est fait entre 1889 et 1989, c'est un truc de malade.
C'est vrai qu'entre les autres, ça reste
oui, c'est ça.
Petite auberge. Et d'un coup,
où tu vois, à un moment, il dit juste, alors, qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans ? Ben, on a inventé la cheminée. Ils ont inventé la cheminée. Alors que s'il y avait la même chose entre 1889 et 1989, ben, on a inventé les voitures, les téléphones portables, l'électricité, l'eau courante, absolument tout. C'était vraiment incroyable. Et donc, j'ai bien aimé la fin. C'est un petit peu plus classique, tout ce fil rouge final où, du coup, il y a vraiment un antagoniste très identifié qui veut faire des trucs de méchant. Et donc, le but, c'est de...
Mais c'est un peu plus léger aussi, d'un côté. Enfin, il y a pas mal de blagues sur la fin.
Plusieurs, oui. Non ?
Bah non, c'est... Parce qu'il y a... Ah, j'ai oublié son nom.
Il y a Désir, mais il y a...
Non, moi, je parle... Le méchant, c'est celui qui n'a pas d'œil.
Oui, mais il est... En fait, il est envoyé par Désir.
Bah,
oui, non, mais je parle vraiment de...
Il n'est pas vraiment envoyé.
De l'épisode 7 à,
si, tout ça,
à 10.
Tout ça, c'est un plan parce que c'est Désir.
Mais il l'a plus relâché que.
Oui, Désir l'a relâché, mais après, Désir a fait un gosse avec la fille qui devrait être le Vortex. Donc, du coup, c'est
oui, Désir a mené un complot, mais je veux dire que toute cette structure narrative, elle est beaucoup plus classique par rapport aux premiers épisodes où justement c'était des aventures indépendantes avec quelquefois des petits fils rouges comme dans les premiers épisodes où Morpheus essaye de retrouver ses outils. Mais voilà, avec le recul, justement, je compare assez facilement cette série à Doctor Who.
Oui,
où justement,
y a des
c'est,
liens.
Mais
c'est...
avec des effets spéciaux qui sont mieux.
Oh, c'est pas gentil.
Oh, t'as pas
c'est pas gentil.
Dernières saisons.
Ça, c'est quelqu'un qui s'est arrêté à la fin de la première saison.
Non, la 9.
Mais franchement, il y a des comparaisons à faire parce que déjà, le casting est que anglais.
Oui.
100% c'est... anglais. Ouais. Super casting d'ailleurs. Enfin, tous, ils sont trop trop bons.
Oui.
Le casting est 4 et 5 étoiles. Enfin, ils sont trop bien.
Mais c'était pas ça que je voulais dire. Par rapport à Doctor Who,
ah ouais,
c'était.
Bah, des ouf.
Non, mais tout ce que tu dis est très juste. Mais moi, c'était vraiment plus par rapport à la construction de la série. Où t'as une toute petite intrigue au début, plein d'épisodes uniques, et une sorte d'intrigue de fin. Et t'as une sorte de. Comme un fil rouge qui plane au-dessus et qui trouve sa résolution à la fin. Il y a plein de saisons de Doctor Who qui sont construites comme ça. Par contre. Avec ces épisodes uniques, je trouve qu'il y a tous n'apportent pas grand-chose au développement de Morpheus, au-delà de la quête de ses outils, et je trouve pas qu'il évolue beaucoup entre le premier et le dernier épisode, à part ce qu'on nous dit, mais c'est dit, donc du coup, avant ça, je l'ai pas constaté, où on dit, bah maintenant, il écoute, il est plus gentil, machin et tout. Je trouve pas qu'il a l'air plus humain, je trouve pas qu'il a l'air plus proche de l'humanité.
Ouais, on le voit pas avant, ouais.
Bah oui, mais entre
après sa capture.
Oui, mais entre l'épisode 2 où il est libéré et l'épisode 10, bah il a pas évolué. Bah je trouve pas qu'il ait évolué tant que ça.
Parce que je trouve que au départ quand il sort de quand il se fait libérer, il est dans la vengeance. Le seule chose qui l'intéresse c'est la vengeance, alors qu'à la fin de la saison, il est plus dans la vengeance. Il est dans OK, bon bah c'est passé, on essaie de remettre les choses, de faire quelque chose de mieux, d'être dans l'avenir. Dans...
Ouais, mais je trouvais pas que c'était si palpable. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé le traitement des rêves. Je sais pas vous, mais moi personnellement, mes rêves n'ont aucun sens. Et j'arrive souvent à m'en souvenir, donc j'arrive à me rappeler qu'ils n'ont aucun sens. Et j'ai l'impression qu'il y a une écriture attentive des séquences, justement, des songes. Et pas seulement des... Bon, allez, on écrit des trucs un peu chelous, un peu random. Et en fait, je dis ça parce que comme j'arrive à me rappeler de mes rêves, j'ai trouvé... Comme par exemple, quand il y a Jed qui fait des trucs et d'un coup, il y a des rats qui sortent de nulle part. Bah, mes rêves, ça ressemble un peu à ça. Mmh. Ou d'un coup, t'as un truc imprévu comme ça. Voilà, je pense qu'il y a eu un peu une attention particulière là-dessus. Tu parlais du casting. J'ai beaucoup aimé certains personnages. Par exemple, Jenna Coleman, elle est trop bien. Dans cette version de l'exorciste Constantine, j'aurais trop bien aimé qu'on la voie plus.
Ouais,
j'aurais vraiment.
J'ai cru qu'elle allait être plus conducteur.
Présente.
Oui,
plus présente.
Mais un peu comme Gwendoline Christie, qui en fait, on la voit. Elle a un épisode où elle apparaît un peu, puis on la voit à la toute fin, mais elle est là assez peu souvent. J'ai trouvé Mort trop génial aussi.
Ouais.
Son personnage, il est vraiment très beau. Elle est dans sa bienveillance, dans sa tendresse, dans sa justesse. J'ai bien aimé. Mais je crois que mon perso préféré, c'est Lucienne. Elle est trop classe, elle est trop bienveillante. Et puis elle est la raison de Morpheus, elle est un peu sa boussole morale tout le temps. Chaque fois qu'il veut faire des dingueries, vous pouvez pas faire ça. Donc. Enfin, j'ai vraiment aimé son personnage et l'actrice, elle l'incarne vraiment très bien. Et enfin... Non, pas du tout. Je me suis pas amusé à tenir les comptes parce que ce serait un peu tomber dans un mauvais piège, mais j'ai l'impression qu'on atteint une vraie représentativité des minorités.
Oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de minorités qui sont là. Et ça fait pas simplement quota. Ça fait.
Ça fait intégrer dans.
C'est ça, c'est naturel.
Ça a du sens en fait.
Ça fait pas. Alors, il y a le personnage LGBT, il y a le personnage noir, il y a le personnage handicapé. Voilà, ça fait plus. Voilà, c'est intégré de manière très naturelle. Visuellement, c'est très réussi, comme tu l'as dit, Mathilde. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. L'épisode 5, moi, j'ai retenu l'épisode 5 comme un peu le plus beau. Je trouve que la lumière, elle est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de reflets, il y a beaucoup de jeux d'ombre, etc. Je trouvais ça vraiment très beau.
Moi, j'avais bien aimé celui où il y a le combat avec Lucifer, quand même. Je trouve que ça marche trop bien.
Oh, mais oui.
Quand ils se font des combats,
c'est
là, je
court,
suis.
Ouais,
je suis.
On dirait la chanson de Zazie. Mais... ouais, mais
je suis
ouais,
l'univers.
Bah, tu vois, là, c'était vraiment
je suis
un peu.
C'est
vraiment ce que j'ai.
Toi, tu trouvais lent.
Ouais,
ah, moi,
lent
aimé...
et on s'écoute un peu. Quoi.
Ah, moi, j'ai bien aimé quand il dit je suis l'espoir.
Ouais, mais c'était.
Qui est plus grand que l'espoir. Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore. Je crois que j'aime bien les trucs qui s'écoutent parler. Je suis un peu comme ça.
Les costumes sont. Mais alors, je crois que j'y ai pensé. Quand c'est un. Je me répète, mais je suis moins fan du format série. Un film qui s'écoute parler, ça me dérange pas et j'aime bien. Une série qui s'écoute parler, bah du coup c'est long et ça me gave un peu quoi. Au bout de 4 épisodes où on s'écoute parler, enfin 4 épisodes, ça veut dire que ça fait déjà 3 heures. Alors que quand c'est Tenet, et bah Tenet c'est 2 heures et bah ça me dérange pas de voir un mec qui s'écoute parler.
Ah ouais, en VO c'est complexe. Hein.
Oui. Mais c'est... les costumes.
Ça m'a traumatisé. J'avoue.
Les costumes sont très jolis et en adéquation avec les personnages. Ça, c'était pour dire qu'en gros, tout le monde est habillé de manière cohérente.
Oui.
Les effets spéciaux sont assez réussis. Même si, je te rejoins pas, il y a quelques créatures qui sont pas folles dingo.
J'étais
justement,
sûre que t'allais dire ça.
Justement, le monstre avec Barbie là.
Oh, il est trop bien.
Il est trop bien designé et tout.
On avait l'impression que c'était ma conscience.
Mais
j'ai dû rêver d'un monstre similaire.
Non, mais surtout, il y en a un dans un truc pour enfants avec
mais
un
oui.
gamin qui s'appelle Elliot.
Oui.
Et c'est dans E.T. avec
c'est
Elliot.
Pas le même.
C'est pas...
non,
tu confonds
c'est
avec une histoire sans fin.
Oui.
Oui.
Et bah, ça
c'est un dragon,
vachement.
Mais il s'appelle pas Elliot.
Il s'appelle pas Elliot.
Non,
c'est Elliot
toi,
le
tu
dragon.
Tu confonds avec Elliot le dragon. Mais dans une histoire sans fin, il y a un monstre, un gros monstre, mais il ressemble pas à ça.
C'est un dragon.
C'est un dragon, regarde, il est comme ça.
Mais il a une moustache.
Mais non, il a une moustache. Mais par contre, il parle un peu de la même façon.
Mais le plus moche, la plus moche créature, c'est le bébé gargouille.
Ah, mais il est marrant. Mais
oh, oui, mais il est vraiment pas beau.
Oui, mais je pense que c'est fait exprès.
De voir les créatures pas
très... Ah, mais par contre, le dragon...
Le petit
dragon qui est redevenu du sable pour que Morpheus fasse des
trucs, c'était vraiment trop triste. Ça, c'était un bâtard.
Un autre qui revient après.
Oui, mais c'est toi qui as dit on remplace pas
les
êtres chers. Ah si, c'est toi t'as dit qu'on pouvait le faire, Mathilde et moi on a dit qu'on le faisait pas.
C'était pour la blague. Donc,
et
sinon par contre, moi j'ai vraiment ri le moment où c'est une convention de serial killer qui s'appelle Céréal, vraiment le moment où j'ai compris, je me suis dit ça a aucun
sens. Moi j'ai assez vite compris le truc. Mathilde, t'as peut-être trouvé pourquoi c'est la convention des céréales.
Parce que les serial killer,
comme dans... c'est pas dans la Cité de la Peur où il y a cette blague-là, serial killer.
Mais si.
Mais après, ça se peut, hein.
Mais moi,
serial.
J'ai trop aimé quand il y a l'autre mec qui... Enfin, le truc du... Enfin, le mec qui est une montagne et un fleuve, là. Et qui... qui se promène partout.
Qui est une montagne et un fleuve.
c'est une prairie en plus.
Oui, c'est une prairie.
C'est un lopin.
C'est un lopin. Le lopin du ministrier. Mais désolé, mais le mec, comme.
Il est trop bien.
Sa personnage. Réaction est incroyable parce qu'il fait ah bon, une convention de céréales où il n'y a pas d'enfants, c'est quand même raté. Et après, quand il se rend compte de ce qui se passe et que tu prends sa tête, genre, mais ça va pas du tout.
Mais en même temps, il faut dire que les serial killers sont les personnes les moins discrètes du monde. Dans leur petite conférence là.
Moi, le gars qui m'a fait bader, c'est le gars qui avait le chapeau avec les petites oreilles de chat. Il m'a fait penser au petit truc de Anya qu'elle a sur sa tête dans Spy X Family. Il m'a fait trop peur.
À ton casque.
Non.
Celui qui veut choper le gamin.
Celui qui veut choper le gamin et qui dit c'est moi le mien.
C'est clairement un pédophile donc il fait terrifiant.
Non, il est terrifiant. Non, mais ils sont tous terrifiants.
Oui,
le
mais
docteur,
lui, comme il est vraiment. Comme c'est un pédophile, je trouve qu'il y a le côté
un peu marrant
de l'autre
côté. Lui, il veut essayer d'attraper le gamin, il y a l'autre qui veut pas l'avoir et tout. C'est quand même un peu rigolo, alors que vraiment, le sujet.
Ah, moi j'étais.
Moi j'étais pas bien.
Tous les autres m'ont fait rire parce qu'ils sont grotesques. Lui, il m'a juste. Il m'a cringe tout le temps.
Et on en parle du mec dans le dîner qui dit à la fille non, mais moi je viens chez toi et en fait. Je baisse ton fils.
Oui,
et sur le coup,
horrible.
Ils disent pas l'âge du gamin.
Oui.
Et du coup,
j'étais
blanche devant la télé, genre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? Et le mais c'est un bébé encore. Il a 21 ans quand même. Mais moi, j'étais vraiment pas bien devant la télé. Oh, il est trop cringe.
Et le fou rire qu'on a eu, Mathilde et moi, c'est dans l'épisode 6, quand Morpheus apparaît avec des cheveux longs.
Ah oui.
Non, c'est trop bien.
Ça y va.
Parce
pas du tout. C'est affreux. Je ne prenais plus rien au sérieux à ce moment-là. Dès qu'il y avait un contre-champ sur lui, je pleurais de rire. Je pouvais plus le prendre au sérieux.
Mais je sais plus ce que j'ai dit en le voyant, mais j'ai dit un truc vraiment méchant.
Ah, c'était vraiment hyper drôle.
Oh là 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 là. Cette coupe de cheveux ne lui va pas.
Non, vraiment.
Du tout.
Les
du
cheveux
tout,
longs, ça ne lui va pas.
À Tom.
Parce qu'en plus, il est hyper premier degré tout le temps.
Mais
donc
oui.
En fait, quand il débarque avec les cheveux longs comme ça, j'ai une nouvelle coupe.
Mais surtout, il sourit pas, rien du tout. Son visage est fermé. Oh là là. Oh là là, pas du tout. Mais voilà, c'était une bonne série. Je suis contente.
Oui, la fin rattrape tout. La fin rattrape tout. On peut passer au reco de septembre. En septembre, Mathilde.
En septembre, ça continue.
Tu vas faire tout en chantant.
Je pourrais, mais ça ferait trop de yoga. Il y a She-Hulk, Avocate, saison 1 sur Disney+. Il reste encore 6 épisodes à diffuser. On n'en a pas regardé un seul parce qu'on regardait Sandman, mais on va pouvoir regarder maintenant.
J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, ça se fait fracasser.
C'est parce qu'ils n'aiment pas les McBeal.
Ah, j'ai vu un peu des deux.
Mais... Ah, c'est pas ça. Apparemment,
moi, je regarde
c'est moche.
Pas,
apparemment, c'est extrêmement moche.
Ah bon, on verra bien. Écoute, c'est ça. On est là pour ça. Regarder et vous dire, vous donner notre avis. Game of Thrones, House of the Dragon, saison 1 sur OCS, encore un épisode.
Non, t'as juste oublié de mettre l'élément le plus important de l'information.
Alors, encore beaucoup d'épisodes vu que le deuxième épisode est sorti aujourd'hui. Donc, beaucoup. On ne sait pas jusqu'à quand ça va. On n'a pas regardé encore. On va le faire, promis. Promis.
Mais c'est bon, ça vient de commencer.
Allez, et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté en septembre?
Ah ben, on se demande.
Il y a la rentrée des classes.
Oui, mais alors...
Nous, on va plus à l'école, donc on s'en moque.
Non, c'est l'autre rentrée.
Mais il y a la rentrée des livres. La rentrée littéraire ?
Non, on s'en fiche.
La rentrée cinéphile ? La rentrée des séries.
Ce sera pour ton podcast littérature.
C'est la rentrée des séries.
Ton podcast film.
Qu'est-ce qu'il y a dans les séries ? Le jeudi 1er septembre, nous avons Lord of the Rings, The Ring of the Power. Power.
Les Anneaux du Pouvoir.
La saison 1 sur Prime Video.
Tu vas le regarder
Video,
en VF, tu peux le dire en français. Power.
La saison 1 sur Prime Video, ça sera un épisode par semaine ?
Je sais pas.
Tout d'un coup ?
Je sais pas.
Personne
ne sait. Je pense que ce sera un épisode par semaine.
Bouh, vous avez pas fait votre travail.
Bah, c'est toi qui t'occupes de cette partie.
Oh bah des ouf.
T'es bien.
C'est moi qui regarde le plus de trucs et en plus je m'occupe de cette partie. C'est ça mon travail. Détox saison 1 sur Netflix. C'est une série qui parle de la détox, bien évidemment.
Sur comment faire des petits jus.
Non. Ça parle de d'arrêter d'être sur son téléphone portable.
Ah ouais.
Ah, je crois que j'ai vu passer ce truc-là.
Je me sens très peu concerné.
Après, le jeudi 8 septembre, il y a pas mal de trucs le 8 septembre. Il y a
Toutou Youtou.
Toutou Youtou, la saison 1 sur OCS.
Mais c'est pas du tout ça, le nom.
Si, Toutou
c'est
Youtou.
C'est Toutou Youtou.
Toutou Youtou.
Ça ressemble
oups.
Un peu.
Toutou Youtou. C'est trop marrant. Quand même.
Ça a sans doute aucun rapport.
Toutou Youtou. Si, je crois que c'est un rapport, ça se passe dans les années 80, et je me demande si c'est pas un truc de gym.
Ah ok, autant pour moi.
C'est diffusé sur OCS, et je pense que ça sera un épisode par semaine. On aura également le film de Pinocchio en live action qui sort sur Disney+.
Pinocchio.
Non, c'est un autre
non,
Pinocchio.
Ça fait longtemps qu'on l'attendait justement. Non, l'adaptation de Robert Zemeckis avec Tom Hanks.
Oh oui. Là. Et ben ça, ça sort le 8.
Je crois qu'il y a un premier visuel qui est sorti.
Non, il y a la bande annonçant.
Ah ok.
La bande annonçant. Je l'ai regardée avant de faire le podcast.
Et ben Pinocchio ressemble très pour très à Pinocchio du dessin animé oui. Et j'étais un peu déçu.
C'est exactement ça. On a également Wedding Season, la saison 1 sur Disney+. Alors ça, c'est plutôt amusant. C'est une meuf qui se marie et en fait, elle invite son ex, je crois, à son mariage ou un mec avec qui elle est sortie, je ne sais plus. Et il s'avère que la plupart des gens qui étaient à son mariage meurent empoisonnés.
Ok.
Et en fait, bah, on l'accuse lui parce que il a dit non, je veux pas qu'il se marie pendant la cérémonie, donc on l'accuse lui. Mais c'est pas lui. Et bien évidemment, qui a tué tous ces gens ? Ça a l'air d'être super humoristique parce qu'en plus, il s'était rencontré avec cette personne dans plein de mariages différents. Mmh. Donc ça parle de mariage. Ça a l'air très marrant.
Les Anneaux de Pouvoir, ce sera un épisode par semaine.
D'accord.
Et les deux premiers épisodes pour le lancement.
D'accord.
Voilà.
Donc jeudi, deux premiers épisodes, ça roule. Sinon on aura Cars sur la route, série d'animation sur Disney+.
Oui.
Je suppose que c'est une série d'animation sur Cars.
Oui, avec Black M.
Non.
Non, par
avec
contre.
Avec la voiture rouge. Brum,
avec
brum.
La.
Et Martin. Brum.
Et ça fait que.
Quoi ?
Dans la bande-annonce, on voit un boulon, un énorme boulon. Peut-être.
Peut-être qu'il y a un sens à l'attraction.
À l'attraction Cars Road Trip à Disneyland Paris, qui a le plus gros boulon du monde. Boulon du monde.
Boulon.
En plus, c'est un écrou, donc c'est même mal
boulon.
Fait. Et donc, voilà. Peut-être qu'en fait, Cars Road Trip est une adaptation de la série animée, sans le savoir.
Cars est sorti après.
Peut-être, ou peut-être pas.
Oui.
Je continue mon programme avec jeudi 15 septembre, La Servante Écarlate, saison 5
ça
sur OCS. Du coup, on aura deux épisodes, puis un épisode par semaine, et ça sera diffusé en US plus 1. Donc en gros, c'est diffusé
le lendemain de la diffusion.
Avec un jour d'écart de la diffusion US. Oui.
Ça va être horrible.
Bah, moi, j'ai déjà pas vu la saison d'avant.
Ah, moi, j'ai arrêté à la 2, c'est trop horrible, j'arrivais pas à dormir. J'ai abandonné.
Voilà. Mais tu sais.
Parce que ça, c'est à cause de Morpheus.
Il y a pas mal de trucs qui m'ont fait réagir, c'est que j'ai vu des gens qui faisaient des. Enfin, en gros, qui disaient vous voyez la servante écarlate ? Et bah, si ça continue, notre monde, il va ressembler à ça. Et du coup, plus les gens disent ça, moins j'ai envie de regarder parce que ça me fait grave flipper, en fait. Voilà, voilà.
C'est trop, trop bien fait.
On met un peu de meilleure ambiance avec la sortie de Vampire Academy, la saison 1. Je ne sais pas du tout où ça va être disponible en
France.
Mais
comment tu sais que ce sera diffusé en France, alors ?
Ben, je sais que ça sera diffusé. Mais c'est sur un... En fait, j'ai vu que ça allait être diffusé grâce à Captain Watch. Je sais que ça va être diffusé. Le seul problème est la plateforme de diffusion que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Peacock.
Comme un perroquet ?
Chaîne Peacock.
Ah, c'est
une chaîne, mais du coup, en France...
Oui, je connais deux noms, mais...
En France, je sais pas trop où ça sera dispo. Si
Damien doit la voir
online
dans son bouquet des chaînes obscures de MyCanal.
Et bah, je sais pas.
C'est un pan, c'est pas du tout un. Voilà. Peacock, c'est un pan.
Un pan. On est d'accord que c'est copié sur NBC alors.
Uki, apparemment c'est anglais et c'est irlandais.
Comment ils ont fait?
allemand, australien, suisse et italien.
Il y a beaucoup, beaucoup de nationalités dans cette série.
C'est parce que c'est la division c'est streaming de NBC.
Voilà.
Comme quoi. Tout se recoupe.
Du coup, ça sera dispo sur
Sur Peacock TV.
Ah bah, je suis ravie de l'apprendre.
Mais en France, alors?
Je sais pas.
Parce que vraiment, il faut qu'on mène l'enquête sur cette série.
Mais en tout cas, ça a l'air marrant. Ça se passe dans un lycée. Il y a des vampires.
Si t'as un VPN, ça passe.
Et il y a des tueurs de vampires, bien évidemment. Et c'est une Vampire Academy. Franchement, ça m'a clairement fait penser à Vampire Diaries. Et ça me manque. Hein. Ça me manque.
Moi, quand tu me dis Vampire Diaries, ça me fait penser aux diarrhées de vampires. Pardon, mais...
On est ravis d'être là.
Il y a beaucoup de gens en France qui disent diaries.
Non, mais c'est pas des moqueries. Hein. Ah. C'est juste, ça sonne pareil, quoi. Donc,
okay. Bon, bah voilà. Sinon, il y aura également la sortie du film Si tu me venges.
Tu l'as mis juste parce qu'il y a Mayao.
Non, c'est vrai. Mais
je l'ai trouvé il y a 3 minutes sur Twitter. Il y avait une grosse photo avec Mayao.
Et ça sort sur quoi?
Sur Netflix.
C'est vrai que j'ai vu la photo où elle est allongée sur un lit avec Camila Mendes
qui joue dans Riverdale. Et du coup, j'ai vu cette photo et je me suis dit, mais attends, c'est un film ado avec Mayao, il faut que je le regarde. Ça a l'air trop bien, Si tu me venges. Ça a l'air d'être un thriller young adult stylé avec Mayao. En fait, il y a Mayao, il faut regarder. Quoi. Enfin, je vois pas d'autres... Je vois pas d'autres. On regarde tous les films où il y a Maya Hawke et où il y a Kid Connor.
Mais t'as pas regardé.
Ne cherchez pas à comprendre.
T'as pas regardé la trilogie d'horreur là, de Netflix de l'année dernière.
Elle était dedans.
Ouais.
Oui, mais il faut pas exagérer.
Non, bah non. Hein. Enfin, à un moment donné, tu peux pas dire des choses.
Est-ce que je peux la regarder sans le son?
Non, mais par contre, tu peux le regarder avec le son de Toutou Youtou.
Toutou Youtou. Sinon, le vendredi 16 septembre, il y aura Les Murs Vagabonds. C'est un film d'animation japonais qui sortira sur Netflix, qui a l'air vraiment trop beau.
Et qui a un très bon nom.
Ça a l'air trop beau. Et il y aura également la saison 2 de Destin, la saga Winx sur Netflix, qui a l'air trop cool aussi. C'était trop bien, j'adore les Winx. En fait, ça c'est aussi kitsch que Shadowhunter. Et comme Shadowhunter me manque, bah, je suis contente que ça
arrive. Ce serait trop drôle s'ils ont un truc Digimon en live action.
Aucun rapport.
Ah, ouais, c'est vrai.
Bah non, mais
le mercredi 21 septembre, il y aura Andor, série Star Wars, saison 1 sur Disney+, 3 épisodes, puis un épisode par semaine. La sortie de la série a été décalée juste après l'enregistrement de l'épisode de juillet.
Faut pas le lire comme ça.
Mais oui.
Ah bon.
Ça, par contre, ça a l'air très cool. Pour oui, le ça coup, a l'air, ça a l'air bien. Mieux que les derniers trucs Star Wars.
En gros, ça devait sortir en juillet, finalement, ça sort qu'en septembre.
Non.
Pourquoi tu grâles
là, quand on a fait le récapito de la semaine de l'année dernière, oh là là, du mois dernier,
de l'histoire dernière,
du mois dernier, on avait dit que ça sortirait le 31 août, je crois.
Ah.
Et en fait, quelques jours après l'enregistrement de juillet, c'est un erratum. La série a été décalée au 21 septembre. Sans doute, il y a pas eu de raison, mais sans doute pour éviter que ça s'entrecroche avec She-Hulk.
Ah, je croyais que c'était la pénurie du papier.
Oui, parce qu'il y avait pas on pouvait plus faire les flyers.
Peut-être.
Les flyers de Disney+.
Ouais.
Moi, j'ai pas compris votre blague.
Non, mais il y en a pas. Sinon, mercredi 23 septembre, il y aura la sortie du film Athéna sur Netflix.
C'est un film français.
Alors,
c'est
un film français qui me met vraiment mal à l'aise. J'ai regardé la bande-annonce et j'étais pas à l'aise, en fait, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une guerre civile. J'étais pas au courant. Et en plus, il n'y a pas
Comment
de femmes.
Comment ça, t'es pas au courant? Bah, tu regardes pas les bons médias.
Et en plus, il n'y a pas de femmes. Il n'y a aucune femme dans la... J'ai vu une image de femme dans toute cette bande-annonce.
C'est un peu dommage parce que ça s'appelle Athéna.
Oui,
c'est peut-être ça le principe.
Quoi?
C'est peut-être ça le principe, peut-être que...
Un film sans femme. En fait, c'est
Non, mais
des...
je veux dire que ça s'appelle Athéna et que ce soit un film sans femme, je sais pas.
Les seuls moments où j'ai vu... Je crois que j'ai vu une femme, c'est la mère d'un des gars.
Pardon, vas-y, désolé.
C'est la mère d'un des gars. Mais sinon, il n'y a pas de femme dans ce film. C'est juste, si j'ai compris, c'est la police qui a des intercations avec un groupe d'individus Et c'est, j'ai pas, enfin, je sais, rappelé c'est la guerre.
Rappelé du front, suite à la suite de la mort de son plus jeune frère, décédé des suites d'une prétendue intervention de police, Abdel retrouve sa famille déchirée entre le désir de vengeance de son petit frère, le business en péril de son grand frère dealer. Il essaie de calmer les tensions. Athéna, c'est le nom de leur cité, en fait.
D'accord.
Et oui, effectivement, le casting a l'air quand même très masculin.
Ah oui. Mais en fait, c'est parce qu'il y a l'Adjli dans le film. Et déjà, l'Adjli, on lui avait un peu, on était un peu tombé dessus dans son film. Les Misérables, vous dire, mais il n'y a pas de meuf dans ton film.
Ah, mais là, c'est flagrant. Tu regardes la bande-annonce, t'en as pour 4 minutes. C'est que des affrontements entre la police et les personnes de la cité. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de femme. Aucune. Mm. Nada. Alors, peut-être que je me trompe. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai envie de regarder ce film. Enfin, c'est... Je ne sais pas si je vais le voir ou pas. Ça a l'air vachement violent. Et je sais pas trop ce que ça essaie de raconter, en fait. Je sais pas si ça prend parti pour les personnes dans la cité, si ça prend parti pour...
Mais Romain Gavras, c'est pas le gars qui fait beaucoup de films sur les banlieues
Je sais pas si ça prend parti pour la police.
Il a fait
Banlieue
13.
Je sais pas.
Il a fait... Je connais pas les films qu'il a fait, mais je crois que j'avais passé ça. Il a fait un film qui s'appelle Le Monde est à toi. Et les trois premiers mots, c'est François Petit Dealer.
Ouais.
Voilà.
Il y a un petit thème, quoi, en gros.
Bah, ouais. Je sais pas quoi en penser, vraiment.
Bon,
je l'ai mis là, voilà.
C'est un film.
Mercredi 28 septembre, il y aura Star Wars The Bad Batch, saison 2 sur Disney+.
Ah, mais c'est trop bien, parce qu'elle était trop bien la saison 1. Si la saison 2, elle est aussi bien.
Avec un épisode par semaine, je suppose.
Oui, sans doute.
Et mercredi 30 septembre, il y aura My Best Friend Exorcism. C'est un film dispo sur Prime Video.
Bah, sympa.
C'est un... Comment on peut dire ?
C'est un slasher.
C'est un slasher, ouais.
Ah ouais ?
Ouais. Et il a l'air vraiment, moi, il m'a fait rire.
Le titre a l'air marrant.
En fait, ça a l'air d'être, d'après la bande-annonce, ça a l'air d'être un slasher, enfin un film horrifique qui reprend plein de codes. Il y a plein de refs au film L'Exorciste, plein de slashers. Un peu, peut-être, je les ai pas vus, mais genre des films du style Annabelle, des trucs comme ça.
J'ai pas vu ça.
Alors, quelle plateforme on choisit pour septembre ?
Moi, je serais presque tenté de dire Prime, mais j'ai pas envie de le dire. Mais malheureusement, ils ont Le Seigneur des Anneaux.
Ouais, mais ils ont que Le Seigneur des Anneaux.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je trouve que OCS se défend pas mal. Hein. Il y a La Servante Écarlate, il y a Game of Thrones.
Il y a Toutou Youyou.
Il y a Toutou Youyou. Et puis, il y a quand même Netflix qui est toujours à la hauteur.
Moi, je dirais Disney+.
Ah ouais ?
Il y a un peu de tout.
Oui, c'est
il y a
vrai.
Du Marvel, il y a du Star Wars en live action qui va commencer,
il y a
une série d'animation Star Wars qui va commencer, et puis il y a Cars sur la route, si on a envie d'un peu regarder un truc détente.
Je suis assez d'accord avec Amy. En plus, il y a deux trucs Star Wars.
Ouais. Ok, bon, on part pour Disney+, alors, pour ce mois-ci.
Ah, oh, on a qu'à faire et Star Wars The Bad Batch. Non,
quel sera le sujet du mois ? Si tu me penches, ça vous
va ? C'est juste les autres options sont un peu
c'est
plus
un,
relou.
C'est un teen movie... C'est un teen movie avec Maya Hawke et Camilla Bunn.
Les films, c'est quand même plus pratique en général.
Oui, c'est plus pratique, ouais.
Moi, ça me va, si tu me venges.
D'accord, ok, bah on part sur ça.
Eh ben, on a terminé.
Oui.
Ainsi se termine ce 22e épisode du Récapito. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode normal avant de revêtir nos habits d'Halloween.
Ah oui, 22 comme 2022.
Oh, on va s'arrêter sur cet épisode-là. Et l'année prochaine, on fera le 23e épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez mettre plein d'étoiles pour nous aider à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux Insta et Twitter et sur notre blog plaid.fr. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, même si c'est plus la canicule, gardez cette bonne habitude. On se retrouve le mois prochain.
Ouvrez la bouche quand il pleut.
Non, la pluie est polluée.
Ah oui, pardon.
On se retrouve le mois prochain pour parler donc de Si tu me venges sur Netflix. Merci Mathilde.
Et de plein d'autres trucs.
Si
vous voulez savoir, Si tu me venges, ça parle de deux adolescentes, Drew et Eleanor, qui acceptent de s'en prendre chacune à la brute de l'autre.
D'accord.
Voilà. Et l'affiche est beautiful.
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 Et merci Damien.
Merci à toi.
Bonne continuation.
Et vous de même, hein, j'espère qu'on pourra se recroiser bientôt. Qui sait, au hasard de...
À la revoyure. Salut.
Bye.